Génie sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
On va se gêner, ravi de vous retrouver jusqu'à 18h aujourd'hui. Nous sommes de retour de vacances, ensemble jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec Claude Sarraute. Ouais. Christine Bravo. Bravo. Jérémy Michalak. Titoff. Et Fabrice Bénichou. J'ai dit Fabrice ?
Ouais, ça a le plus. C'est comment le foutre de mauvaise humeur le premier jour dès la première minute.
Mais t'es malade.
Pierre, je voulais dire Pierre Bénichou.
Non, non, mais ça fait rien, Fabrice, le boxeur est mon fils.
Mais non, je pensais à Fabrice Eboué pour signaler que Fabrice Eboué n'était pas là aujourd'hui parce qu'il est en tournage pendant ce mois de septembre, mais qu'il sera de retour dès que son film sera terminé.
Ah bah dis donc, ça c'est une information fantastique. Dis donc, comment j'aurais pu vivre pendant une heure ou deux sans savoir si
Fabrice... Soyez pas jaloux de Fabrice Eboué, il n'est pas là, vous allez pouvoir en profiter.
Pierre Eboué n'est pas tellement bon en ce moment.
Et puis je vous signale que vous aurez une rude concurrence à partir de lundi prochain, puisque monsieur Olivier de Kersauzon nous rejoindra dès lundi 31 août dans cette équipe de façon quasi quotidienne.
Comment ça, quotidienne?
Quasi quotidienne.
C'est quoi quasi?
C'est que j'ai oublié de vous dire, vous ne venez plus.
Bonne nouvelle.
Qu'est-ce qu'elle est bronzée et belle, Christine Bravo.
C'est surprenant.
Surtout bronzée.
Et ce qu'il faut noter, c'est que Christine n'a pas pris un gramme pendant l'été. Ça prouve qu'elle avait vraiment rien à bouffer, alors.
Non, elle avait rien à bouffer au Mexique.
Elle a pas gagné un rond pendant l'été, donc elle n'avait rien à bouffer.
Exactement ça.
Et ben, ça va pouvoir continuer.
Ah, oui, je te le confirme.
J'ai eu des échos de son séjour au Mexique, car madame est allée au Mexique. Comme si chat et chaudet ne craignaient pas l'eau froide. Elle est retournée au Mexique, et il paraît que là-bas, c'était une sarabande, hein, c'est pour savoir. C'était des Paco, des Chico, des Nico.
N'importe quoi.
Il paraît que ça a été une sorte de folie sexuelle là-bas.
Vénarde.
Bilan d'opération, 14 morts.
Pourquoi vous rien, Claude, pendant l'été?
Moi, tu rigoles, mes fils.
Ah non, fils, c'est dégueulasse.
En famille. Mais tu viens du Nord.
Et vous, Pierre Bénichou, vous avez fait quoi pendant l'été?
Moi, j'ai fait ce que je veux. Puis les questions, tu les poses à d'autres. Hein, c'est tout.
Bon, je demande pas à Titoff s'il a pris un peu de poids pendant l'été.
Non,
c'est pas la peine.
Comment dire, j'ai bien mangé. Hein, ah oui.
Des auditeurs, évidemment, qui participeront à l'émission comme l'année dernière.
Moi, j'ai passé des bonnes vacances aussi.
Oh, pardon. Mais je sais.
Ah oui, le piège, merde.
Évidemment, je le sais.
Oui, bien sûr.
Non, on s'est pas vu avec Joujou des vacances.
Attends, c'est vrai, je remets mon costume de Joujou, pardon, parce que là, je l'avais enlevé pendant un mois. Bonjour, ça va.
J'ai pas vu Joujou de l'été, j'étais très triste.
Tu peux me demander où il est allé en vacances?
Alors, où il est allé?
Los Angeles et Las Vegas.
Non, non, non,
c'est tout.
Il est allé à San Francisco.
Très vite, très vite. Je suis passé très vite. Oui, oui, bien sûr.
Deux auditeurs patientent au téléphone depuis le début de cette émission. On ne change pas les bonnes habitudes qu'on a commencé à prendre la saison passée. Anne-Laure et Jean-Marie vont jouer contre vous dans le premier challenge du jour. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous habitez Martigues.
Voilà.
Et Jean-Marie est à L'Aventie, dans le Pas-de-Calais. C'est bien ça, Jean-Marie?
C'est bien ça. Bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe.
Bonjour Jean-Marie. Voilà. Anne-Laure, vous faites quoi dans la vie?
Je suis adjointe de direction dans un hôtel à Martigues.
Ouh. Adjointe de direction dans un hôtel. Très bien. Et vous, Jean-Marie?
Alors moi, je suis commercial dans les assurances.
Bon.
Et je profite de votre antenne aussi pour vous dire que j'appelle du magasin de mon épouse qui est commerçante dans la commune de L'Aventie.
Dans quelle branche?
C'est une maison de presse, papeterie, librairie.
Est-ce que vous avez bien révisé l'un et l'autre, Anne-Laure et Jean-Marie?
Moi, j'ai fait de mon mieux. En fait, quand votre assistante m'a appelé, je partais à un mariage, donc samedi. Donc, j'ai annulé le mariage, j'étais témoin, je suis pas allée pour pouvoir réviser.
Oh, l'excuse bidon, pour pas aller au mariage.
Et vous, Jean-Marie?
Ben, nous, écoutez, on vend la presse, mais à vrai dire, on n'a pas tellement le temps de la lire, quoi. Donc, on n'a pas trop révisé, quoi.
Je sais pas, il y a un événement pendant l'été qui vous a plus marqué qu'un autre?
Moi, c'est plutôt sur le sport, donc le début de ces zéros ratés de l'OSC, qui est mon équipe préférée, quoi, en fait.
Ah, Lille, oui, hier, qui a fait match nul contre le TFC au dernier moment. Et vous, alors, Anne-Laure?
Ben, j'ai pu récupérer quelques petites infos insolites ce matin, j'espère que ça tombera là-dessus, voilà.
Ils sont en tout cas au taquet, Christine a révisé pendant tout l'été, ça se voit. Claude a tout en mémoire.
Non, parle pas. Moi, je
rappelez-moi le nom du président de la République, Claude.
Attends, Sarkozy. Je connais tellement bien, c'est comme mon fils. Alors, j'ai son stabilo dans mes yeux. Et chaque fois que je lis un journal, je sais ce qu'il va souligner. Je sais de quoi il va nous parler. Je le relis et j'oublie.
C'est le contraire de Joujou, qui sait pas les questions que je pose, mais qui répond toujours.
C'est ça. Ah ouais,
c'est ça.
Il doit les savoir.
Anne-Laure, Jean-Marie, vous allez jouer, mais quand?
Après la pub.
Wow, quelle mémoire!
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute son équipe.
Europe 1, On va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Anne-Laure, Jean-Marie, vous êtes prêts?
Prête.
Attention, prête et prêt à répondre à cette question. Il faut aller plus rapidement que les 5 chroniqueurs présents aujourd'hui. 85 fonctionnaires présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis un mois, surveille quelque chose au Val-de-Reuil. Qu'est-ce qu'il surveille ?
Des fonctionnaires ?
Bah oui, des fonctionnaires de police. Une compagnie de CRS, 85 fonctionnaires de police. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Personne ? Personnalité ?
Pas de personnalité, non.
Au niveau de la météo, peut-être ?
Non.
C'est une petite bête qui vient d'apparaître, qui est très 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 méchante et très 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 piqueuse. Et qui se répand comme ça sur les plages.
Ah oui. Ah non, car la plage du Val d'Or est une plage très très célèbre, ouais. Il faut le dire.
Très sympa pour les vacances.
C'est quoi le Val d'Or?
Le Val d'Or, c'est dans l'Eure, Claude.
C'est au bord de la mer?
Non, c'est dans l'Eure.
C'est dans l'Eure au bord de la mer. Ah oui, même ça, c'est parti.
Bah, comment je pourrais savoir où est l'Eure?
Ah bah, là, sur la pendule, au milieu du studio.
Est-ce que ça a rapport avec un vaccin?
Oui, c'est-à-dire?
Ils ont décidé de sécuriser au maximum et donc il y a 85 fonctionnaires.
Laissez répondre Jean-Marie qui quand même a commencé sa réponse. Jean-Marie, ouais. Allez-y.
Mais en fait, il y a 85.
On vous entend plus Jean-Marie.
Moi, vous m'entendez?
Oui. Ah, ça c'est très drôle.
Ah, elle est drôle, oui.
On vous entend, mais c'est Jean-Marie qui a commencé à nous donner la bonne réponse. Alors allez-y, Jean-Marie.
Oui, donc en fait, ce sont 85 fonctionnaires qui protègent un laboratoire qui fabrique les vaccins pour la grippe A.
Contre la grippe A.
Contre la grippe A.
Bonne réponse de Jean-Marie.
Bravo.
Mais excuse-moi Laurent, moi, à un moment donné j'ai dit grippe A,
ouais.
et rien.
Oui, mais comme on a une très mauvaise liaison téléphonique aujourd'hui et que Titoff évidemment n'est pas arrivé, comme vous le savez, il appelle de sa voiture. J'ai pas pu.
C'est dégueulasse. Ça.
Chez lui. Je n'ai pas pu entendre.
Premier dans le studio.
Je n'ai pas pu entendre la bonne réponse évidemment. Je signale d'ailleurs que les auditeurs sont ravis qu'on fasse une demi-heure de plus, qu'on soit là jusqu'à 18h30. Il y a quelqu'un qui nous a même envoyé un mail. Je vais vous citer son nom tout de suite. Quelqu'un qui dit: bravo pour les 30 minutes supplémentaires, ça permettra au moins à Titoff de faire 2 heures d'émission.
Ça, c'est bien.
Anne-Laure, vous réessayerez, vous tenterez à nouveau votre chance une prochaine fois. Jean-Marie, on vous envoie toute une liste de cadeaux dans un filet garni. La saison démarre, vous pouvez nous faire confiance. On a tous les bouquins d'été, toutes les places qu'il faut à vous offrir. Et peut-être même.
Un petit body Brave Hollywood.
Encore? Vous le faites encore?
Ouais, je le fais encore.
Et s'il n'a pas d'enfant, Jean-Marie, on s'en fout, on lui envoie quand même.
J'ai des grands enfants, mais bon, je l'exposerai dans le magasin de mon épouse.
Super.
Alors, on applaudit encore Jean-Marie de l'Aventi, en tout cas dans le Pas-de-Calais, qui a gagné le premier challenge. Et c'est vrai que les vaccins contre la grippe A sont surveillés 24 heures sur 24 par 85 CRS présents 7 jours sur 7. À croire quand même que c'est un bien précieux conseil, ils sont cons.
Il ferait mieux de surveiller la grippe A. Alors moi, pour l'empêcher d'attaquer.
Claude, je veux dire quelque chose de très important. Ah. Il se trouve que je lis le New York Times, Herald Tribune tous les jours.
Ah oui.
Et deux magazines, Time et Newsweek, américains. Tous les jours, quand je parle.
Vas-y, je t'écoute.
Et là-bas, on appelle ça la grippe porcine. Et on nous colle encore la grippe aviaire parce qu'on a peur qu'on mange moins de cochon.
Personne ne parle de la grippe aviaire.
C'est ce qu'on disait avant.
Non, c'est pas la même.
Si, c'est la même.
Non, c'est la même.
C'est la grippe mexicaine.
Non, c'est pas non plus la grippe mexicaine.
Bah, si.
C'est la grippe porcine.
Elle n'est pas mexicaine.
Elle vient du Mexique.
C'est la grippe porcine.
Non, elle vient pas du Mexique.
Elle vient des cochons du Mexique.
Alors de quoi vous?
Mais oui.
Est-ce qu'elle viendrait pas d'une grosse cochonne du Mexique?
On y vient. Qui était au Mexique cet été?
On y vient.
Ah oui, mais c'est pourtant.
Mais moi, ça m'est arrivé, ça. Je sais plus si j'étais dans un Quick ou un McDo. Je sais plus. Je faisais la queue comme si j'attendais. Et au moment de commander, il y a juste à côté de moi, il y avait une famille de Mexicains. Mais vous savez, à l'époque où ça a démarré, on appelait ça la grippe mexicaine. Ouais. Donc il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, ça emporter? J'ai dit, non, je passais juste comme ça.
Ça vous fait la trouille, Pierre, vous, la grippe? Ah, alors avec Mme Bachelot, est mobilisée tous les jours. À peine je la vois, je l'attrape,
moi,
la grippe.
Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais parce que je crois jamais aux catastrophes. Moi, j'ai plutôt une bonne nature. Mais j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour les jeunes gens, pour les enfants. Moi, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la grippe, moi?
Et pour les musulmans, alors?
Tu vas paniquer.
Pour les musulmans,
choper
aussi,
la
peur.
Grippe du cochon en plein ramadan, c'est mal, quand même. Attends, j'imagine.
Claude, il faut vous surveiller, parce que c'est les personnes âgées, les zones...
T'as vu, un peu? Ben oui, je suis spécialement menacée, j'espère que vous allez chouchouter à mort.
Il est increvable, attends. On va tous crever avant.
Tous les cochons seront morts avant elle. Ah bah ça y est, et voilà. Elle vient bien de chez elle, la grippe du cochon, même le rire.
Ouais.
Franchement. Elle en fait trop ou pas, Madame Bachelot, alors, sur la communication autour de cette grippe?
Je sais pas. Madame, non, c'est son métier. Je veux dire, quand même, quand t'es ministre de la Santé et qu'il t'arrive une pandémie dont tout le monde te dit, il y aura 20 000 personnes, il y aura 20 millions de Français qui peuvent l'avoir. Et t'es ministre de la Santé, c'est vrai que t'as du ruban.
Si elle ferme les écoles.
Oui.
Si elle ferme les crèches.
Oui.
Le personnel soignant dans les hôpitaux, il sera plus là. Il sera à la maison en train de garder les enfants à qui on a fermé l'école et la crèche. Et voilà.
C'est pas con, ça.
Ah non, c'est pas con.
Je vous nomme ministre de la grippe A, Claude.
Merci.
Bon, remarquez, on pourrait mettre, demander à monsieur Luc Châtel de, je sais pas, d'employer des figurants pour remplacer.
Pour remplacer les enfants.
Pour remplacer les enfants dans les écoles.
Ah, oui.
Mais ce serait pas mieux que nous, par exemple, que l'émission, on la fasse à partir de chez nous.
C'est moins dangereux.
Ah. Ouais, pas.
Quand je pense ce micro, il y a peut-être un mec qui a la grippe A qui a parlé dedans juste
alors,
avant moi.
Non. Alors là, vous voulez que je vous apprenne un truc?
Ouais.
Europe 1 a pris déjà des mesures préventives contre la grippe A. Désormais, les bonnettes sont désinfectées et changées tous les jours.
Ouais,
et particulièrement après votre émission.
Et on retrouve Laurent Ruquier et son équipe.
Europe 1, on va se gêner.
La question facile, la question qui récompense Joujou.
Et oui, Joujou, ça va être facile de répondre à cette question, j'en suis sûr, en tout cas pour vous les autres, je n'en sais rien, mais je suis sûr, vous, Joujou, que vous savez ce qui se passera dans les jardins du château de Schönbrunn le 26 septembre prochain.
La fête de Sissi.
La fête de Sissi.
Sissi, c'était une dame, c'était l'impératrice.
L'impératrice.
Au cas où jamais tu saurais pas, tu sais.
Il y a très peu de garçons qui s'appellent Sissi.
Sissi, Joujou, c'est assez proche en même temps.
Mais pourquoi on ferait une fête de Sissi le 26 septembre prochain?
Oui, hein, parce que c'est à Schöndorf.
Vous connaissez le château de Schönbrunn?
Schönbrunn, non, ça a rapport avec Napoléon, je me trompe d'empereur.
Pas du tout, c'est une ancienne résidence impériale du temps de l'Autriche-Hongrie,
ah,
ça
bah
vous
tu
avez
vois,
raison. Claude, ça se passe à Vienne, mais que se passera-t-il le 26 septembre dans ce château de Vienne, le château de Schönbrunn?
Il y aura un bal.
Un bal? On peut pas appeler ça un bal, non.
Un concert, alors?
Oui.
Il y aura le concert des...
Oh bah si c'est moi qui ai la réponse, ça doit être les Village People, une connerie.
Tokyo Hotel, Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel.
Autour de Tokyo Hotel.
Non.
C'est quoi?
Tokyo Hotel, excuse-moi de te couper, j'y suis allé. Les chambres sont pas terribles. Non, mais vraiment.
Ils ont perdu une ou deux étoiles, d'ailleurs.
Ah oui.
Bon, ils ont grandi, surtout.
Mais non, enfin, écoutez, je pensais que ça, au moins, vous alliez le savoir. On en a parlé pendant tout l'été.
Bien sûr.
On ne parle que de ça depuis deux ou trois mois.
Oui, quand on est
pardon, je dois y aller. Changer de micro. Salut.
C'est une bonne technique.
Qu'est-ce qu'on va foutre à Schönbrunn?
Croyez-moi, il y aura du monde.
Schönbrunn,
à Schönbrunn. Je peux même vous dire qu'il y aura au minimum 85 000 personnes, puisque 85 000 personnes ont déjà dit oui pour assister à cet événement.
Bah,
c'est un festival ou un concert?
C'est un concert.
Avec plein d'artistes, artiste.
Avec plein d'artistes.
Un tribute à Michael Jackson.
Le fameux concert hommage à Michael Jackson. Bonne réponse de Joujou, je savais que ça viendrait de lui.
Mais comment qu'un pays chargé de passé comme l'Autriche près de Vienne, dans un château de Schönbrunn, où l'empereur allait. Ils ont trouvé que Michael Jackson pour aller faire un hommage à Michael Jackson. Qui va y avoir?
Ah bah, je peux vous dire. Il va y avoir U2, Madonna, Whitney Houston,
U2,
Lionel Richie et des tas d'autres.
Mais même U2 va venir là-bas. Dans son...
Mais ils n'arrêtent pas de l'enterrer. Hein, c'est incroyable.
Non, mais sérieusement.
Ah mais non, il n'est pas encore enterré, Michael Jackson, justement.
Qu'il le fasse dans son pays d'abruti, là-bas, en Amérique. Oh yeah,
il sera enterré
mais
dans...
pas en Europe.
Il sera enterré dans deux endroits différents, Michael Jackson. C'est le principe du tri sélectif, il y a le plastique d'un côté et puis les déchets de l'autre.
Non mais pourquoi en Autriche?
C'est une vraie question.
Ouais.
Et vous savez, il y a un nouveau truc dans cette émission, c'est quand on a des questions comme ça dont on n'a pas forcément la réponse, et bien désormais, on les posera à Paul Vermus. Car ce sera désormais le challenge Paul Vermus.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Eh oui, Paul, on a décidé de vous faire bosser cette année.
Cette année, ouais, vous me mettez au pied du mur.
Non, parce que fini de venir nous raconter alors que vous avez bouffé avec Roger Carucci.
Trop facile, ça.
Qui d'ailleurs fera partie de notre équipe dès mercredi prochain.
Non, c'est pas vrai, ça.
Si.
Un ministre ?
Oui, un ex-ministre.
Il va venir ici avec
ici,
nous ?
Ici, il sera dans notre équipe.
Il faudra choisir.
Il est drôle, ce monsieur-là.
Non, mais nous, on va l'être. Fini donc, Paul, de nous raconter les histoires de déjeuner avec Carucci, qui y avait au musée de l'érotisme, ou...
Carucci
au salon du Hard et tout ça.
Enfin, non. Là, maintenant, on veut de la vraie info.
Vous voulez que je fasse de l'investigation, quoi?
Exactement, de l'investigation.
C'est mon vrai métier, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein.
Ça veut dire que deux fois par semaine, je vais vous lancer un challenge, même voire deux ou trois challenges. Et comme aujourd'hui, c'est la première, je vous donne même trois challenges. Ouais. Et vous devez nous donner les réponses avant la fin de l'émission.
Oh, bah, c'est trop facile, il va regarder sur l'ordinateur.
Enfin, vous plaisantez,
non.
C'est trop facile, j'imagine le pire.
Claude, parce que les questions que je pose sont des questions, évidemment, dont je n'ai pas les réponses, parce que je n'ai pas trouvé la réponse à ces questions dans la presse. Par exemple, pourquoi effectivement c'est un producteur autrichien qui organise le concert de Michael Jackson à Vienne? Personne nous a dit pourquoi ça se passe à Vienne.
C'est donc des choses un peu difficiles à trouver.
Ouais, exactement.
Et t'as trouvé que Vermus pour le trouver.
Pourquoi?
J'ai déjà vu des masons, mais comme ça.
Attendez,
salut Vermus, va chercher.
L'autre question. L'autre question, et c'est la deuxième.
Va chercher Paul.
On a tous entendu parler la semaine dernière de cette femme, mère de famille de 45 ans, recherchée pendant plusieurs jours. Toutes les infos nous disaient, mais alors on sait pas ce qu'elle est devenue. Finalement, on l'a retrouvée. On s'était inquiété parce qu'elle venait du Grand Bornand, en Haute-Savoie. On l'a retrouvée dans un camping avec ses enfants. Or, moi, j'ai lu dans plusieurs articles qu'il se trouve que son époux était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Or, j'aimerais savoir, cher Paul, si le fait que son mari soit un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur ait eu une petite, voire forte influence sur le fait que tous les médias aient d'un seul coup mobilisé la France entière pour retrouver cette femme.
Qui c'est cette bonne femme ?
Paul, vous allez enquêter là-dessus ?
Ouais, bah, si vous me demandez, je vais le faire, bien
sûr. Parce qu'il y a un doute quand même, on se demande quand même si c'est ça.
Il y a plus qu'un doute, il y a des vraies questions, et ça me fait plaisir qu'enfin vous me preniez au sérieux, quoi.
Troisième question.
Voilà.
L'affaire Luc Chatel dans, vous savez, ce supermarché du Val-de-Marne, où des femmes, soi-disant mères de famille prêtes à acheter les fournitures scolaires pour les enfants, étaient prêtes à répondre de façon très aimable au ministre devant les caméras de télévision. On nous a évidemment tout de suite avertis dans la presse en nous disant, oh là là, elles n'avaient pas l'air d'être des vraies mères de famille clientes du supermarché. Dans un premier temps, on a accusé monsieur Luc Chatel, le ministre, d'avoir monté évidemment ce coup pour avoir des sympathisantes autour de lui devant les caméras. Et puis, le lendemain, la direction d'Intermarché a reconnu que c'était elle qui était la seule à l'initiative de ce coup monté, que le ministère n'y était pour rien. La seule question que je vous pose, Paul, c'est... Est-ce que Intermarché n'aurait pas subi des petites pressions pour publier ce communiqué?
Bah écoutez, on va partir en cinéma dans les plus brefs délais.
Et qui étaient ces femmes dans les rayons?
Oui, mais ne vous inquiétez pas, je connais bien les...
C'était peut-être des mousquetaires de la distribution.
Et l'autre, il va partir en cinéma.
Et moi,
il n'est jamais sorti du sixième.
Vermus,
non, pas le sixième, le septième.
Vermus, votre réponse, je vais partir, j'en étais absolument ignoble, nul. Et moi, vous plaignez qu'on vous prenne pas au sérieux. Moi, je vous prends au tragique.
Voilà. Et moi, Paul, s'il te reste un peu de temps, je cherche une voiture. Si tu peux te renseigner sur l'Arbus, je te donnerai la marque tout à l'heure.
Non, non, plus le marché.
Vous avez deux heures, Paul, pour trouver tout ça, franchement. Et attention, j'en ai une petite dernière, une subsidiaire. Je voudrais savoir si on a acheté plus de chaussures Puma Orange dans les magasins de sport depuis la semaine dernière, depuis que Bolt a gagné les championnats du monde d'athlétisme, et quelle progression pour ces chaussures, c'est tout.
Ce que vous me demandez, c'est d'en avoir deux de bonnes sur quatre, quoi, en gros. Hein.
Ah bah, au moins, évident, si vous revenez avec deux infos, c'est promis, on vous applaudira très fort, même mieux, on vous reprendra mercredi.
Bon, allez, bonjour,
bon courage, Paul.
On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Titoff.
Pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de la ferme du Héron Bleu?
Héron Bleu.
Alors quelqu'un...
Elle serait pas en Allemagne cette ferme?
Non, pas du tout.
En France?
Non plus.
C'est pas en France le Héron Bleu?
La ferme du Héron Bleu, non, j'ai traduit.
C'est en Belgique.
Ah. J'ai traduit. Mais si vous voulez, je vous la fais en langue originale. Vas-y. Alors, j'ai bossé tout l'été pour ça.
Alors, ça c'est en Angleterre, donc. C'est ça.
C'est pas en Angleterre.
En Amérique.
C'est en Amérique.
Ouais, voilà. C'est encore pire.
Alors, est-ce que c'est à Martha's Vineyard?
Bravo, merci de m'aider, Christine.
Est-ce que c'est là que Obama?
The Blue Heron Farm, c'est la ferme du Héron Bleu. C'est là où les Obama passent leurs vacances. Vacances qui créent la polémique aux États-Unis parce qu'on estime à $25,000 la semaine le prix de la location de cette ferme du Héron Bleu. Bonne réponse de Christine, bravo.
Et moi.
Moi j'ai dit Martha's Vineyard, c'est quand même facile de trouver Obama étant donné que c'est là qu'allaient les Kennedy en vacances.
Oui, mais quand même c'est inouï qu'on voulait le faire chier ce malheureux parce que
il a loué une
villa là-bas. Bon, c'est le prix de l'endroit qui est un endroit plutôt calme et ravissant d'ailleurs où je fus souvent avec des amis à l'époque avec les Kennedy,
sauf qu'à l'époque les Noirs vous servaient.
Oui. On avait la famille Obama. Non mais alors, reprochez à ce mec-là, qui est un avocat qui gagnait très bien sa vie, sa femme aussi, qui sont arrivés à être président des États-Unis, et on lui dénie le droit d'avoir une jolie villa pour ses vacances. C'est absolument grotesque.
Il a failli pas arriver là-bas d'ailleurs, parce que c'est curieux quand même, ironie du sort, c'est l'ouragan Bill qui l'a empêché de décoller. Vous avez lu ça? Attention, dans le Figaro, on défend plutôt Barack Obama aujourd'hui, en signalant que d'abord il a pris quand même un certain délai avant de prendre ses premières vacances, contrairement à d'autres présidents des États-Unis. Franchement, il a beaucoup bossé avant de prendre sa première semaine de vacances. Et le recordman des vacances, c'est George Bush, avec 1020 jours de congé au total. Il avait quand même la réputation de se la couler
douce.
En une
année, ça fait beaucoup.
Toi,
faudrait pas que vous soyez président, vous. Roi feignant, je vous vois bien, vous.
Attends. 1020 jours. Il est resté 8 ans président.
Ouais.
1020 jours.
On va pas s'arrêter dans les mathématiques.
Non, ça fait 3 ans. Donc, il n'a gouverné que 5 ans sur 8. C'est extraordinaire, quand même.
Alors, c'est pas le record. Le record, c'est un président des États-Unis. Mais alors là, qu'on a tous oublié. C'est le deuxième président des États-Unis qui s'appelait John Adams.
Élu
en 1797. C'est le Figaro, Adèle Smith, qui nous précise ces détails. Il détient, John Adams, le palmarès des présidents en vacances avec 8 mois passés à se ressourcer dans l'année.
Ah, dans l'année? C'est qu'il a bossé 4 mois?
Il n'y avait personne aux États-Unis à ce moment-là.
En 1797.
Ils ont élu un entier ou quoi, là?
Mais quand il bossait, attention, il bossait comme un dingue.
Tout était réglé.
Il a sa photo, sa gravure dans la montagne. C'est un grand américain, un des pères fondateurs.
Ah oui?
Bah oui, évidemment, deuxième président.
Bah peut-être qu'il l'a taillé lui-même, c'est pour ça que ça a pris du temps. Qui mange des nuggets de poulet avant chaque grand rendez-vous? C'est ma question suivante.
Un homme politique?
Non. Qui mange des nuggets de poulet avant chaque grand rendez-vous?
Je l'ai lu. C'est pas un chanteur.
Un chanteur qui, Pierre?
Mais je ne sais pas.
Johnny Hallyday.
C'est pas un chanteur.
C'est quoi un grand rendez-vous?
Ah bah, à vous de deviner.
C'est pas José Bové. On le connaît? Parce que peut-être il faut chercher les gens qui sont à la friture.
Vous connaissez vraiment, vraiment bien, oui.
C'est un pote?
Ah non.
Il est dans l'équipe?
Ça se saurait quand même.
Ah bon, d'accord. C'est un mec?
Oui, c'est un mec.
Le Pen.
Est-ce que c'est un Français?
Le Pen. Jean-Marie Le Pen mangerait des nuggets de poulet.
Chérie, est-ce que c'est un Américain?
Non.
Un Français.
Mais est-ce que c'est un rituel?
C'est un rituel.
Donc il peut pas faire ce qu'il fait sans ses nuggets.
Il faut dire que c'est quelqu'un dont on nous a détaillé de, veut dire,
Paul. C'est le coureur qui a battu le record du monde.
Qui ça?
Bolt.
Usain Bolt. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Bravo.
La fusée Bolt, celui qui a obtenu 3 médailles d'or.
Je l'avais entendu au cours de cet interminable chérie qu'ont été ces Jeux Olympiques.
C'était pas les championnats
du monde. Ouais. C'était épouvantable. Ça devient vraiment ce truc. Quand c'est pas le football, c'est l'athlétisme. C'est pas l'athlétisme. C'est la course automobile. On a l'impression d'un cours de gym qui n'en finirait plus, quoi. On est là, comme ça, avec les gens qui...
Mais t'as qu'à pas regarder.
Oui, mais moi, je suis obligé parce qu'il y a pas toujours Derrick et Maigret. Après ça, moi je regarde Derrick, je m'endors un peu, je me réveille pour Maigret, je m'endors un peu, tout de suite après on a Nestor Burma. Voilà.
Oh là là. La vie de merde.
J'ai les chiffres et les lettres. Et après ça, j'ai question pour un champion.
Ouais, mais voilà. Après ça, tu files en
boîte
direct. Voilà
ce que c'est la télévision pour moi. Non, mais c'est quand pas même. D'aller voir les mecs qui courent.
Mais
en plus, il a pulvérisé le record du monde. Il a gagné de 3 millièmes de seconde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Ah, moi, je n'en ai beaucoup à foutre parce que le bruit court qu'il était dopé. Hein.
Ah, ah bon. Bah oui, il passait chez Nuggets. Au Nuggets, par intraveineuse.
Il est passé chez KFC avant.
Bien sûr.
vous avez essayé les nuggets de poulet, ça vous fait pas courir plus vite, Titi?
Moi, je préférerais encore qu'il soit dopé. Au moins, ça sera un peu marrant. Il y aurait une nouvelle information. Quelle drogue, quel machin. Mais là, il court plus vite. Voilà. Et quand tu vois les imbéciles à la télévision.
Moi, je trouve que la réponse, elle est bonne quand même.
Les imbéciles à la télévision qui disent, oh, c'est une performance surhumaine.
Il faut savoir que c'est quand même le 100 mètres, ils sont comme des fous. C'est le seul mec qui, en général, s'arrête un peu avant la fin pour voir où sont les autres.
Ouais. Alors, il est génial.
Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Et le mec, tu lui dis, alors qu'est-ce que vous faites? Je mange des nuggets. Je trouve la réponse, c'est énorme. Quoi.
Il mange des nuggets avant chaque course. Pierre, vous pouvez pas quand même.
Il est génial. Voilà. Il est génial comme un coureur à pied peut être génial.
Mais il fait le spectacle, c'est ça qui est chouette. Il fait le spectacle avant, il fait le spectacle après. C'est comme le Français. Regardez Romain Ménil, c'était génial de le voir tout nu sous son drapeau ce week-end.
Quoi?
Comment ça quoi?
J'ai pas vu ça.
Ah mais si, il s'est mis tout nu.
Il était tout nu sous son drapeau après avoir eu sa médaille d'argent, Romain Ménil, puisqu'on a eu 2 médailles, la médaille de bronze et pour Renaud Lavillenie, notre petit chouchou qu'on a eu régulièrement la saison dernière au téléphone.
Il avait les derrière le drapeau.
Alors, c'est un petit chapiteau. Il l'a pas enlevé pour le drapeau.
Ah,
hein.
Ah bon, il était même pas tout nu.
Il était tout nu, Claude. Il l'a dit lui-même. Il a même dit à Ramayad, la ministre des Sports, qui était présente là-bas à Berlin. Voilà. Et qui était toute gênée, évidemment, d'imaginer.
Pourquoi il s'est mis tout nu? Il voulait lui montrer à Ramayad.
Il voulait lui montrer en souvenir de la manifestation qu'il avait faite lui tout seul pour avoir un sponsor qui s'était baladé à poil
dans Paris
dans les rues et qu'on l'avait filmé. Voilà pourquoi il avait fait ça. Vous voyez que je connais bien le sport.
Il y a un autre Français qu'on connaît beaucoup moins qui s'appelle Yannick Fonsa et qui devait participer aux 400 mètres. Je dis bien devait. Quelle est la raison pour laquelle le Français Yannick Fonsa n'a pas pu participer aux 400 mètres?
Parce
que son néon est au passé, en fait.
Fonsa.
Il aurait fallu qu'il s'appelle Fonsera.
Du coup, il n'est pas parti.
Peut-être qu'il serait parti.
C'est pas con. Mais c'est pas ça.
On lui a trouvé dans son pipi. On lui a trouvé des traces.
Ça l'a fait rire. Des traces dans son pipi.
Ça vous plaît. Qu'on recherche des traces dans le pipi, ça vous plaît?
Oui, j'adore.
Mais on trouve plus rien dans le pipi.
Dans le sang.
Non. Donc, rien à voir avec le dopage.
Bon, sa femme a accouché.
Non.
Il s'est marié.
Non.
Il avait oublié ses baskets.
Non, il ne les avait pas oubliées.
Ah, elles n'étaient pas conformes.
Pas réglementaires.
Elles n'étaient pas homologuées.
Si elles étaient homologuées, mais on se rapproche.
Il avait paumé ses lacets.
Elles étaient trop grandes.
Non.
Trop petites.
Il avait les siennes de chaussures, ses pointes, comme on dit. Hein.
On
lui a piqué ses godasses. Bonne réponse de Christine Bravo.
C'est dégueulasse.
On a piqué ses godasses au vestiaire et on les a retrouvés au bureau de presse ou un truc comme ça.
Je sais pas où on les a retrouvés.
Ah oui. Mais j'ai bien suivi l'affaire.
Attends, pour une compétition comme ça, le mec il part avec une seule paire de godasses.
Ben oui, elles sont à sa taille. Et
c'est des cons, c'est des cons.
Ah oui, d'accord. Il s'est fait voler son sac avec ses chaussures et son dossard sur le stade d'échauffement à moins d'une heure du 400 mètres. Il avait laissé son paquetage à l'entrée de la tente marquée France et voilà, il s'est retrouvé sans chaussures. Il y a bien un pote qui a essayé de lui prêter les siennes, mais évidemment, il faisait pas la même pointure, ça marchait pas, quoi. Oui. C'est comme si Usain Bolt avait pas ses fameuses chaussures oranges.
C'est quand même dingue, ça. Quand
non, mais je veux dire, il pourrait mettre un magasin de chaussures.
Pour vendre des pompes.
Mais non, pas pour vendre des pompes, mais pour parer à toute éventualité d'un oubli de chaussures au matin.
Et puis lui, quand il est arrivé, il était pas pieds nus, il aurait pu courir avec ses chaussures de ville, tout simplement, voilà.
Il y a un mec en mocassin sur la piste.
Non, déjà, il court comme ça avec des petits pompons, il court. Et l'important, c'est de participer.
Mais avant, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et son équipe. Si vous souhaitez assister à l'émission, deux possibilités. Vous appelez le 3921, c'est 34 centimes d'euros par minute. Ou bien vous allez sur internet www.vip-radio.fr. À vous Laurent.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Sylvain Quimen, ou Quimen. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais il rectifiera.
Moi, je croyais que tu avais dit Quimen. Moi?
Pierre.
Moi, je voulais te le dire depuis longtemps. Puis c'est tout. Allez.
Sylvain Quimen, ou Quimen, rectifiera tout à l'heure lui-même si j'écorche son nom. Mais en tout cas, il a le droit à sa photo dans France Soir aujourd'hui. Parce que vendredi, il a emporté la 14e édition d'un championnat du monde. Quel genre de championnat du monde a remporté Sylvain Quimen à Oulu, en Finlande?
Oulu. C'est du sport?
C'est pas Ola, Oulu.
Ça sent le sport à la con, ça.
Ça sent, c'est le ski de fond.
Non.
Bobsleigh.
Bien sûr.
En plein été.
Oui.
Bobsleigh. Oh, il y a d'avoir de la neige
là-bas. Ah, mais tu as dit au pôle Nord.
Non, j'ai pas dit au pôle Nord, en Finlande. C'est pas sportif, hein.
Non. Un concours de rennes. Ah, bah, bien sûr, il a bu, il a battu tous les records.
Elle ne pense vraiment qu'à ça.
Ah ouais, c'est la picole.
Alors, ce championnat du monde.
C'est un jeu de société?
Non, ce n'est pas un jeu de société.
Un jeu vidéo?
Non plus.
C'est physique ou pas, quand même?
Ah, ça a l'air quand même assez épuisant, mine de rien. Mais
pourquoi mine de rien?
Épuisant intellectuellement ou
physiquement? Non, pas intellectuellement.
Faut porter des poids?
Non, justement, alors curieusement, on ne porte rien.
Ah, on porte pas de vêtements.
Le champion du monde de naturisme, par exemple.
Est-ce que c'est spécifique à la Finlande?
Non. La preuve, c'est que c'est un Français qui a gagné, qui est champion du monde et qu'on aura dans un instant.
C'est de tenir le plus longtemps dans un sauna.
Mais vous connaissez, hein, ce genre de pratique.
C'est une pratique sexuelle?
Non, c'est une pratique.
Non, mais il a raison, Titov. Tu vas d'abord te faire très chaud dans un sauna, après tu te roules dans la neige. Mmh. Mais il n'y a pas de neige en Finlande en ce moment, ni si c'est l'été.
Oh, sûrement.
Bien sûr que oui.
Oui, justement, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de neige. c'est là où ça devient compliqué, quoi.
Non. C'est quelque chose qui est très répandu. Il y a des concours partout dans le monde. Là, c'était le champion du monde et c'est un Français qui a gagné.
C'est le Rubik's Cube?
La 14e édition. Non, mais voyez, voilà, déjà, on commence à se...
Voilà. C'est dans ce genre-là. Alors, c'est le Sudoku.
Non, c'est pas un jeu intellectuel.
Ah. C'est la danse sur tapis.
Qu'est-ce que vous appelez la danse sur tapis?
Alors voilà comment tu te mets devant ton poste de télé.
C'est la
oui. Tu as un tapis avec
c'est
la oui. Et un de mes petits-enfants qui fait ça.
Mais oui, c'est la
et
oui.
Il est champion de France.
Votre petit-fils.
Bavé à côté. Bavé à
côté. Il est champion de oui.
Il est champion de tapis, de danse sur tapis.
Ah oui.
Faut dire que votre maman avait écrit pour la oui pour un an. C'est une sorte de filiation en quelque sorte.
Alors non. On ne porte pas mais on fait des gestes.
Oui, exactement.
Comme
du mime,
si...
air guitare.
Championnat du monde de air guitare. Bonne réponse de Titoff. Pierre, vous allez évidemment nous expliquer ce qu'est le championnat du monde d'air guitare.
L'air guitare, c'est de jouer de la guitare sans guitare.
Exactement.
Ne casse pas, fais-nous une démo, ce sera plus simple.
Voilà pourquoi
je ne veux pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas la couleur, qui ne verront pas. Vous faites semblant de tenir le manche avec la main gauche. Vous n'avez rien dans la main, évidemment. Et vous bougez les doigts comme quelqu'un qui pince ses cordes.
Putain, on dirait Jimi Hendrix.
Tu veux un coup de guitare dans la gueule? Bon, alors, et de l'autre main, on fait romp. Voilà. Je vous ai montré, et il faut faire en même temps Mais là, en même temps, c'est là où c'est pas
non,
seulement.
T'es pas obligé de faire pas, le bruit.
Mais oui, c'est pas seulement un truc de mime. Alors, c'est demander, aussi un truc de bruit.
Non, on va demander non. s'il faut faire du bruit ou pas pour non. être champion du monde d'air guitare à Sylvain Kumen. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Non, c'est Kumen, hein. Mais Kumen, c'est mon colocataire. C'est Gunther Love qui a gagné le championnat.
Ah oui, parce que Gunther Love, c'est votre pseudo quand vous êtes.
Exactement. Non, il faut pas se tromper. Déjà que je mets avec mon colocataire, c'est très difficile. Et c'est Sylvain Kumen. Sinon, il est pas content. Après, il me saoule toute la journée. Mais c'est Gunther Love. Ouais. Oui.
Vous n'auriez pas un accent belge?
Ben, si, parce qu'un petit peu, je représente un petit peu la Belgique, mais j'ai été exclu à Paris, à Belgique. En Belgique, ils en ont marre de moi. Du coup, je me retrouve à Paris et j'ai représenté la France à ce championnat d'air guitare. C'était exceptionnel.
On n'est pas cons, les Français. On envoie un Belge au championnat.
Ils n'ont pas reconnu mon talent à Berlin. Alors, j'ai dû m'exiler dans le nord de la Finlande et là, j'ai remporté au moins une victoire. Au moins une coupe en France cette année. C'est quand même exceptionnel, quand même. Faut pas, voilà.
Alors, est-ce que vous faites le bruit de la guitare?
Non, il suffit juste de mettre un CD derrière et puis de se prendre pour Jimmy Page pendant une minute.
Ah oui, mais on met un CD derrière, mais donc oui. on reproduit les gestes selon le son.
Voilà, exactement. Faut ouais, voilà, c'est voilà. quand même un petit peu artistique, hein. Faut donner mais pour une minute de soi-même. Pas.
Est-ce que, excusez-moi, mais est-ce que tu sais réellement jouer de la guitare ou pas?
Je suis une burne internationale.
Mais voilà, c'est pour ça.
Personne ne reconnaît mon talent non plus en guitare. Du coup, je me suis mis à la guitare. Depuis que je fais ça dans ma salle de bain, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait un championnat du monde. D'abord un championnat de France, ensuite un championnat du monde, et je me suis dit, bon, dans le ventre de ma mère, j'étais prêt, hein. Mais là, je me suis dit, inscris-toi, tu vas tout déchirer, et j'ai tout déchiré.
Ouais. T'as pas eu le championnat du monde du bavardage, non?
Si, si, ça s'appelle de la air politique. Et ça, c'est mon prochain objectif. Ça, c'est pour l'année prochaine.
Vous avez 28 ans.
Exactement.
Gunther Love.
Pourquoi ils m'ont dit 28? Ce sont 27, mais 28.
Si alors bon, ils ont dit 28 dans François.
Oh, qu'ils disent pas 70, ça va.
Et en tout cas, vous avez gagné ce championnat du monde. Vêtu, je lis, d'un costume léopard moulant et doré.
Voilà, bon, ça c'est pareil, elle est pas du tout léopard cette tenue, mais bon, j'aime bien ça aussi si vous voulez, mais c'était doré effectivement.
Un costume doré moulant. Pourquoi un costume doré moulant pour jouer de la guitare?
Oh, bon, je sais pas, j'ai opté pour quelque chose de discret, hein, vu que en ce moment.
Non, mais je veux dire, moi je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux, mais c'est pas normal, parce que un costume de léopard moulant, on l'en porte tous, mais doré en plus, je trouve ça dégueulasse.
C'est pour la discrétion, c'était juste uniquement pour être discret, et puis parce que depuis le début, je voulais avoir la première place, donc ça m'est d'accord. Donc doré, quoi.
Et est-ce qu'avec le succès et la réussite, comme ça, au niveau du air-sex, tu te débrouilles mieux?
C'est incroyable. J'ai jamais autant donné ces dernières années. C'est fou, hein. Je suis complètement c'est fatigué. Je suis crevé.
Il a détrôné un Américain, puisque c'était un Américain qui avait gagné l'an dernier.
C'était le but, hein.
Pardon?
Sournoisement, c'était le but, hein. Je voulais arriver devant les États-Unis, parce que j'en ai marre de me faire battre à la PlayStation par les Américains dans toutes les disciplines. Donc, du coup, là, je voulais remporter la victoire absolument.
21 pays participaient, l'Australie, le Japon et Cocorico. On pourrait peut-être jouer la Marseillaise. Vous pouvez nous chanter la Marseillaise? Faites-nous un petit morceau solo. Un petit morceau de guitare là sur Europe 1.
C'est parti.
Wow, c'est super.
Ah, c'est énorme.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
On vous applaudit, on vous dit bravo, merci beaucoup Sylvain.
Je comprends pourquoi t'as gagné. Hein.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Quel gant rouge a-t-on retrouvé pendant l'été?
Un gant de boxeur
pendant l'été? Non, pas un gant de boxeur.
Michael Jackson, il n'est pas de gant rouge.
Je ne sais pas si vous avez bien fait attention au jingle qui précédait la question. J'espère
culture générale.
Voilà.
Ah oui, il en faut.
Donc c'est un écrivain.
C'est quoi, c'est un écrivain?
Est-ce que c'est un manuscrit, oui, ou un écrivain qui a écrit un manuscrit dans lequel il était question d'un gant rouge?
Ou qui s'appelait
le
gant rouge?
Qui s'appelait le gant rouge. Alors oui, alors quel gant rouge a été retrouvé pendant l'été?
C'est moi qui l'ai dit, Christine.
Oui, d'accord. J'ai trouvé que c'était un manuscrit. Maintenant, faut retrouver l'auteur du gant rouge.
Peut-être que t'as répété. Tu m'as copié, là. Attention.
C'est français ou c'est une traduction?
Elle est folle.
C'est français.
C'est le livre de Stendhal, non?
Pas de Stendhal, non.
Alexandre Dumas.
Non plus. Quel gant rouge a-t-on retrouvé cet été?
19e siècle.
Publié donc pour la première fois, puisque on ne connaissait pas l'existence de ce gant rouge.
C'est un auteur du 19e?
Alors, c'est un auteur du 19e.
Alors, ça peut être Maupassant?
Non.
Balzac?
Non.
Alors, est-ce que c'est un Français?
C'est un Français.
Est-ce qu'il a écrit d'autres livres, mettant le gant bleu, le gant bec,
le gant tricolore?
Est-ce que c'est une suite?
Il a même fait un effort, il a écrit La paire de moufles.
Est-ce que c'est un novelliste?
à quelqu'un qui écrit des nouvelles. Oui. Donc non.
Ah donc
non.
C'est un roman.
Alors c'est un, c'est pas.
Est-ce que c'est un romantiste?
Fait un roman.
Est-ce que c'est un romantiste?
C'est Baudelaire. C'est Baudelaire.
Non.
C'est un poète.
Ce qu'on connaît le plus de lui, je veux dire son œuvre principale, son chef-d'œuvre en quelque sorte, c'est pas un roman. Et là c'est pas un roman non plus.
Une pièce de théâtre?
Une pièce de théâtre.
Merde.
Ah, Guitry? Bah alors, attends.
Non, pas Guitry.
19e siècle?
19e.
Beaumarchais?
Beaumarchais non plus.
Bernstein.
Quoi,
Claude? Bernstein.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Bah, parce que vous êtes tellement nuls tous, mes pauvres enfants.
Ah, bien sûr.
Ça, c'est bon, ça, tu sors n'importe quoi, bien sûr.
Ah, vous connaissez pas. Pas Léonard Bernstein, Henri Bernstein.
Ah oui? 19e siècle? 19e siècle?
Bah, il est né au 19e siècle.
Ah ouais.
Il est né en 1880.
Alors donc, on cherche un auteur de théâtre du 19e.
Pas Musset, non.
C'est pas théâtre,
Edmond Rostand.
Edmond Rostand, ouais, excellente réponse de Claude Sarraute. Alors là, bravo Claude.
Alors là,
j'avais au bout de la langue depuis tout à l'heure.
Toi, c'est moi qui suis gêné.
Bon, c'est toi qui. C'est-à-dire que t'es à l'école avec lui aussi, donc bon.
Effectivement, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, avait aussi écrit Le Gant Rouge qu'on croyait à jamais perdu, une œuvre de jeunesse qu'on a retrouvée pendant l'été et qui est publiée pour la première fois. Alors là, bravo, vous m'avez épaté, Claude, je dois dire.
Mon chéri,
non, franchement.
J'en ai encore sous les bigoudis. Hein.
Vous êtes capable de me, comme ça, là, à brûle pour point, de me donner la tirade d'aîné de Cyrano de Bergerac? Non,
écoute, s'il te plaît, pas la tirade d'aîné.
Pas quand Christine est là.
Pas
d'attaque
personnelle.
Bon, alors, je vais quitter la culture, parce que je vois quand même que c'est pas facile pour vous.
Ah, t'as vu, moi, hein.
Ah oui, très bien, Claude. Oui. Mais là, vous allez avoir un peu plus de mal pour me dire qui a fait une Madjer ce week-end.
Boomsong.
Bonne réponse de Titoff.
Qu'est-ce que c'est une Madjer?
J'ai même pas compris la question.
Alors, expliquez.
Ni la réponse.
Le Madjer, c'est en fait...
Une Madjer.
Une Madjer, c'est du nom d'un ancien footballeur qui s'appelle Madjer, qui avait marqué le premier but. En fait, c'est une reprise de volée quand le ballon passe derrière.
C'est Gourcuff,
et en
alors.
Fait, c'est avec le talon, mais de la jambe arrière, en fait.
En fait, donc, c'est marquer un but avec le talon. Talonnade. Hop, voilà. Et on marque un but.
Paf.
Et c'est ce qu'a fait Boomsong. Effectivement, Boomsong. Le joueur lyonnais, ce week-end, contre Auxerre, il a marqué... Comme ça, avec le talon.
Voilà. Mais normalement, il faut essayer de faire exprès. Lui, il a voulu tirer avec l'avant et il a tiré.
On appelle ça une Madjer, du nom de Rabah Madjer, qui, lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 87, avait inscrit ainsi un but. Un joueur d'origine algérienne qui a ainsi laissé son nom dans l'histoire du football.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui
a dit quoi?
Quoi?
Qui a dit à propos de son ex-mari, disons que la fidélité n'est pas son truc? Qui a dit à propos de son ex-mari, disons que la fidélité n'est pas son truc?
Quelqu'un qui vient de divorcer.
Qui vient de, non.
Qui a divorcé
Berlusconi,
depuis longtemps.
Berlusconi?
Non.
Qui a divorcé depuis longtemps?
Oh, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment divorcé.
Et c'est politique, des politiques...
Ne dites rien.
Si,
Alessandra, la femme de Lelouch.
Non, pas de Lelouch.
La femme de Lelouch.
Non. Mais si, Claude Lelouch.
Oui, c'est vrai.
Non. Ah, j'ai cru qu'elle avait la bonne réponse.
Non, elle a dit autre chose, en fait.
Non.
Elle a dit, disons que la fidélité, c'est pas son truc.
Donc là, Claude est en train de nous dire que Lelouch est totalement infidèle.
Donc elle s'appelle Alexandra.
Non, elle s'appelle pas Alexandra. J'ai vérifié, c'est pas Alexandra.
C'est marrant ce que tu dis là, parce qu'elle est la femme de Lelouch. Elle a donné un grand interview dans Match et elle a dit la même chose.
Oui, mais enfin, toutes les femmes disent ça.
C'est vrai, j'ai lu. Enfin, toutes les femmes qui ont des maris infidèles.
Oui, c'est-à-dire toutes les femmes
qui ont des maris réalisateurs.
Pierre, disons que la fidélité n'est pas son truc. Quelle femme a dit ça de son ex-mari?
Femme politique?
Pas femme politique.
Non. Mais femme d'un homme
femme
politique.
Femme à lunettes.
Femme d'un homme artiste.
Femme, compagne en tout cas d'un artiste très célèbre.
Ah bah alors c'est normal alors.
Mais c'est son... Attention, elle est compagne d'un artiste très célèbre, mais c'est de son ex dont elle parle.
Johnny?
Il est connu son ex?
Alors connu, en tout cas, depuis quelques semaines, on en parle beaucoup dans la presse.
Ah, d'accord, mais il est pas connu, genre c'est pas un artiste ou
non,
quelqu'un qui a une
notoriété.
D'accord.
Celui qui est connu, c'est
l'actuel.
Le compagnon du moment.
Ok. Ah, alors attends. Oh, je comprends plus rien. Alors c'est Jean-Paul Belmondo. C'est la comment elle s'appelle? La demoiselle brune avec les...
Barbara!
C'est ça.
Barbara, la compagne de Jean-Paul Belmondo. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Thank you.
Ah bah oui, il doit pas être fidèle, ils ont des clubs échangistes, des trucs comme ça ensemble.
Et voilà. Ouais. Disons ouais. que la fidélité, c'est pas son truc. Elle parle de son ex-mari, Frédéric Van der Wilt. Cet homme, effectivement, accusé de tout et de rien. D'ailleurs, on sait pas trop, c'est
on
pas très clair.
On sait pas, parce qu'on dit qu'il a des ennuis avec la justice, parce qu'il est belge. Mais pas du tout, en fait. La défense et illustration du mari de sa compagne par Belmondo était formidable. C'est un homme qui a des boîtes de nuit. Oui, ou c'est vrai. On voit, il y a qu'un spectacle, c'est des femmes qui montent à l'assaut d'une barre verticale, comme ça, à poil et tout ça. Bon, ben, c'est normal. Et puis alors, la police, tu cherches des poux dans la tête.
On sait pas pourquoi.
Pour des histoires de drogue. Quelle drogue, en fait. Enfin, non, tout ça, c'est du petit monde, tout ça.
Non, mais... Et puis, apparemment, ils disent aussi qu'ils ont eu des clubs échangistes dans leurs affaires. Il y a certains clubs échangistes, tout ça.
Bien
c'est
sûr.
Vrai que, bon, après.
Non, ils ont échangé des clubs.
C'est comme un mec qui a un bar et qui boit pas avec les clients, quoi, tu vois.
Comme un curé, qui croit pas en Dieu, c'est pas possible.
Voilà, quoi. Si,
c'est une ancienne playmate, hein. Et lui, un ancien videur de boîte de nuit. Ils sont mariés, ils ont.
Voilà, mais maintenant, ils travaillent à l'intérieur de la boîte de nuit, quoi. Avant, ils étaient devant.
Ils ont ouvert leur premier club de lap dance. Ils sont restés associés, même
bien
s'ils
sûr.
Ne sont plus ensemble.
Mais bien sûr.
Depuis, elle est tombée amoureuse de Jean-Paul Belmondo, qui continue à bien la défendre quand même.
Et même à lui prêter de l'argent. D'après l'ex de Belmondo, la Nati, qu'elle s'appelle, eh bien, Nati. Ouais, qui lui refuse de voir sa fille.
Bah oui, mais c'est normal, elle trouve que la nouvelle compagne de Jean-Paul Belmondo est pas une fille bien, parce que
voilà.
C'est une playmate, alors qu'elle, c'était une coco girl. Ça n'a rien à voir.
Ah mais c'est exactement ça.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais c'est ça, mais
exactement
ça. Sauf qu'effectivement, quand il y a des menaces de mort et des trucs comme ça, et que tu dois envoyer ton enfant en vacances, c'est vrai que c'est pas très sécurisant. C'est-à-dire que
mais qui les a reçus les menaces de mort en fait dans cette
histoire ? La
Jean-Paul Belmondo.
Et puis son ex-compagne.
Voilà.
Donc si tu veux, c'est vrai que quand tu dois envoyer ton enfant, enfin faut voir un peu. Il y a des parents divorcés, me comprendront. Ouais. Tu te demandes si t'envoies pas ton môme dans un guépier quand même.
Ouais.
Et toi, t'as jamais divorcé, tu peux pas savoir. Mais
mais même si j'avais divorcé, je serais pas marié avec une coco girl. ou ma femme que j'aurais quittée serait pas mariée avec un hardeur qui est belge en plus, tout ça. Y a pas de raison. En fait, je veux dire,
c'est pas gentil. Vous l'aimez beaucoup, Jean-Paul Belmondo. Alors, vous pourriez quand même défendre.
Mais j'aime bien Jean-Paul Belmondo. J'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo. C'est un ami de 50 ans. C'est vrai que je sais pas s'il a pas mis le pied dans un guépier.
À mon avis, au départ, c'est pas le pied.
Enfin, c'est couillon parce que Francis Huster aurait filmé ça plutôt qu'un homme et son chien. Ça aurait eu du succès
carton.
Allez, on se retrouve après le flash.
Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner.
Toujours Claude Sarraute, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Jusqu'à 18h30. Attention, n'oubliez pas une demi-heure de plus pour vous tenir au courant de l'actualité, pour s'amuser avec les infos, mais aussi pour jouer, puisque Frédéric et Stéphane vont affronter les chroniqueurs dans un instant. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes parisienne.
Oui.
En tout cas, vous habitez Paris.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Professeur à domicile.
Professeur à domicile. À votre domicile ou au domicile
des autres ?
Au domicile des autres. Prof de quoi ?
Un peu tout, jusqu'en cinquième, et après, plutôt les matières littéraires et l'anglais.
On peut être prof de tout ?
Ben oui, pour les petits.
Ça s'appelle instit.
Mais non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas payée par l'éducation nationale, oui. Donc par des particuliers. Oui. Donc elle peut même si elle ne connaît pas l'anglais, dire je suis prof d'anglais.
Exactement.
Voilà. Ouais, vous savez, le il y avait en Espagne, il y avait un professeur d'un type qui voit une annonce professeur de français. Alors il arrive.
Qu'est-ce que c'est ?
On sonne à la porte. Et il ouvre la porte, il dit « Je suis le professeur de français qu'on vous a causé. » Alors le mec il fait « Vous ?» Il dit « Je.
» Stéphane, vous faites quoi dans la vie, vous ? Bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, je suis PNC.
PNC, à PNC aux portes.
Voilà, tout à fait, vous connaissez.
Steward, donc.
Tout à fait.
Et vous, vous habitez Brunois dans l'Essonne.
Dans l'Essonne.
Ah ben, c'est près des aérodromes.
Ah, peut-être il y a un rapport, d'ailleurs, non? C'est pour aller plus vite à l'aéroport?
Non, parce que justement, je travaille à Roissy.
C'est pour aller plus vite à la maison, surtout.
Ah, c'est pas de bol, il travaille
je
à Roissy.
Je suis mais je travaille à Roissy.
Ah, c'est con.
Ah, mais ça, c'est logique, hein.
Attention, la question n'est pas facile, Frédéric et Stéphane. Vous êtes prêts?
Oui.
C'est une question qui va nous emmener jusqu'à Buenos Aires, en Argentine. Car le 30 août prochain, c'est-à-dire dans 6 jours maintenant, hein, dans moins d'une semaine, on va inaugurer là-bas à Buenos Aires une statue. Une statue qui représente qui? Quelle statue?
Laurent Ruquier?
Non, non.
C'est n'importe quoi. Il a tellement fait pour l'Argentine.
Je suis allé 2 fois en Argentine,
ouais,
mais enfin...
Ouais, mais ils sont contents que tu sois venu.
Rapport avec le ramadan?
De Florent Pagny?
Non, de Florent Pagny.
Attends, on en fait déjà pas en France, ils vont pas s'en coltiner une là-bas.
Evita Perón?
Non.
Mais c'est en Argentine.
C'est en Argentine.
C'est un homme ou une femme? Une femme.
C'est plutôt une femme.
Comment ça, c'est plutôt?
Oh non.
Ah
oui, c'est Frida.
Suzanne Boyle.
Non, c'est une jeune femme.
Ah, une petite fille.
Une petite fille même.
Ah, une petite fille. Attends, attends.
Une petite fille qui a fait quelque chose en Argentine.
Qui a fait quelque chose très célèbre en Argentine. Il était temps qu'elle ait sa statue là-bas.
Oh, ah, elle est connue en Argentine.
Très connue.
Et en France?
En France, un peu moins, mais connue aussi.
Une demoiselle qui a vu la Vierge.
Non.
Elle existe ou c'est un personnage?
C'est un personnage.
Putain, comment s'appelle le truc qu'il y avait dans les livres d'Espagne? Mafalda?
Mafalda! Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Culture générale, les amis, c'est top niveau aujourd'hui.
Mais c'est quoi, Mafalda?
Tu sais, c'était un petit personnage de dessin animé.
Mais arrête, tu lui connais les questions à l'avance.
Oh oui, c'est clair, c'est pas possible.
Alors là, vous deux, là... Hein,
mais non, on l'avait dans les bouquins d'espagnol, Mafalda. J'ai appris à parler espagnol grâce
tout
à...
Tout le monde, tous ceux qui ont lu un peu de BD connaissent Mafalda. Je vais vous passer le dessin de Mafalda. Ouais. C'est un Argentin qui s'appelle Joaquín Salvador Lavado, alias Quino. Quino, je sais pas comment
Quino,
on doit dire.
Quino, c'est ça.
Qui a aujourd'hui 77 ans et qui a créé ce personnage de bande dessinée. Ah, c'était pas facile, hein, mais effectivement, il y aura une statue géante de Mafalda à Buenos Aires, dans le quartier historique de San Telmo, à partir du 30 août prochain. Tenez.
Et tu savais ça, toi?
Oh ouais. Non, je sais pas.
Mais non,
Mafalda.
Écoute, ça, c'est le truc, tout le soir, il te dit la petite souris va passer. Et il te met les réponses sous l'oreiller. Mais oui.
Exactement.
Non, c'est parce qu'en ce moment, j'ai mal à la gorge et tous les soirs, j'ai fait où t'as mis Mafalda? Où t'as mis Mafalda?
Ça a failli déraper rapidement. Mais si, regardez, tu connais sa tête, quoi.
Moi, je la connais très, 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 très bien. Elle, mais c'est une petite peste.
En revoyant la tête, je vois pas trop comment ils vont faire un statut, quoi.
C'est une petite peste.
Tu vois,
ça, c'est vrai.
Un gros brochet. Il y a bien une statue du chat de Gueuluc. Il peut y avoir une statue de
Mafalda. Il y a déjà une statue à Buenos Aires de Fangio, un des plus grands pilotes de Formule 1 argentin.
C'est un personnage vivant. C'est un personnage qui a été le plus célèbre du pays. C'est pas c'est comme si on faisait une statue de Mickey.
Non, mais eh ben oui, il y a des statues de Mickey. Ça existe.
Jamais à Disneyland ou quoi?
Enfin,
non, il n'y a pas de statue.
Et Mafalda, peut-être que Joujou inconsciemment se rappelle quand je l'ai invité chez moi, parce que j'ai ramené.
Non, je suis toujours drogué quand je vais chez toi. Je me souviens de rien.
J'ai ramené de Buenos Aires des vous savez des petits comment ça s'appelle pas les.
Godmichet. J'ai des préservatifs.
Des Godmichet au Mafalda.
Mais non.
Le problème c'est les cheveux au bout.
Des dessous de verre, voilà. Comment ça
Ah, des sous-bocs.
Des capotes.
Des sous-bocs. Des sous-bocs. Et mes sous-bocs, dessus, il y a qui? Il y a Mafalda. Voilà.
Ah, non, non.
Ça, non, mais quand même, un peu de culture générale ne fait pas de mal dans cette émission, Frédéric. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord?
Si, tout à fait.
Vous connaissiez Mafalda?
Un petit peu, oui.
Un petit peu. Ah, vous voyez. Et Stéphane?
Pas du tout. Moi, pas du tout. Pas du tout préparé.
C'est même pas de nom. C'était la meilleure réplique de Stevie. J'avais dit, mais vous savez qui est Socrate? Vous connaissez Socrate quand même? Il dit de nom.
Non mais Mafalda, forcément vous êtes arrêté à Mandrake, vous, Pierre Bénichou, et à Zyguépus. Il y a eu d'autres bandes dessinées depuis Mandrake et Zyguépus.
D'accord, mais il est quand même assez bizarre que l'on fasse d'un personnage de bande dessinée une statue public.
Mais non, c'est comme Tintin, c'est comme...
Tu as beaucoup de statues.
Il y a un musée Tintin en Belgique.
Il y a un musée Tintin.
Oui.
Mais une statue dans la rue. Tous les jours et qu'on dise, j'habite à côté de la statue de Tintin. Il y a juste entre Jeanne d'Arc et Tintin.
C'est vrai.
Mais tu vois une ville de France où il y aurait...
Et puis tu vois la statue d'Astérix. Bon, mais tu tournes après.
Moi, j'habite rue du Capitaine Haddock.
C'est une très bonne idée. Moi, je vais mettre Bécasse.
bécassine chez moi voilà, en Bretagne.
Une statue de bécassine.
Voilà. Il y a peut-être une statue de bécassine en Bretagne.
Oui, par exemple.
Mais en Bretagne, mais t'es fou. Les Bretons détestent bécassine.
C'est pas vrai, ils en sont très fiers.
Mais pas du tout, ils disent on veut nous faire passer. Elle a même pas,
elle a pas de bouche. Elle a pas de bouche.
Elle est bête, bécassine. Et ils disent c'est un ça, on veut nous faire passer nos admirables femmes bretonnes pour cette petite conne.
J'étais scandalisée quand j'étais très jeune, je faisais des manifs et j'étais scandalisée par cette image de fille sans bouche.
Bien sûr.
Ah ouais, ben moi aussi. Hein.
Allez, on se retrouve dans un instant.
Europe 1, on va se gêner. La question intelligente
qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
La Cour de cassation a reconnu à quelque chose de nouveau le statut de preuve. C'est une décision qui a été prise fin juin, décision qui va changer énormément de choses. Qu'est-ce qui constitue désormais une preuve d'après la Cour de cassation?
Les SMS, les textos.
Les textos, les SMS. Bravo, bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Preuve de quoi?
Par exemple, lors d'une procédure de divorce, on peut désormais retenir contre son époux ou son épouse un SMS ou un texto, à condition qu'on n'ait pas cherché à obtenir ce texto. C'est-à-dire qu'on n'ait pas fouillé pour l'avoir. C'est un peu compliqué, mais...
Fouillé.
Bah, c'est-à-dire, si le texto, vous l'avez reçu, je sais pas, par erreur, par exemple, ou si vous l'avez vu parce que votre mari n'a pas fait attention, là, vous pourrez vous servir de ce texto comme preuve. En revanche,
good.
Si vous êtes allé chercher dans le répertoire ou dans la série de textos enregistrés du téléphone, là, vous ne pourrez pas utiliser.
Ah bon, quelle est la différence en fait?
Il faudra toujours justifier dans quelles circonstances vous avez attrapé le téléphone portable du conjoint.
Voilà. Comment? Dans quelles circonstances? Tu lui as piqué pendant qu'il dormait.
Voilà. Comme tout le monde, quoi.
Mais non,
comme
tout le monde. Parfois, on envoie aussi un texto par erreur, vous savez.
Oh, bah alors là, dis donc. Alors là, il fallait compter là-dessus pour obtenir le divorce.
Ah oui?
Bah, par erreur. Non, mais attends, ça va pas.
Mais si, ça
non, il faut faire gaffe au rappel, surtout.
Ah oui.
Des fois, tu mets le téléphone dans la poche, il n'est pas verrouillé.
C'est un progrès dans la mesure où tout appel téléphonique, toute voix pouvant être contrefaite, on ne retient pas comme preuve une parole entendue au téléphone ou un enregistrement, parce que il y a des types qui sont formidables et qui peuvent te refaire une voix entièrement, même une phrase entière. Tandis qu'un texto, tu ne peux pas.
Bah, attends, moi, je te pique ton portable, par exemple, tu t'absentes 2 minutes et que j'envoie des saloperies à ta femme. Elle va penser que c'est toi qui lui
bien
envoie.
Bien sûr, c'est pire avec le texto.
Puis nous, on dirait que c'est toi, en plus.
Et nous, on dirait que c'est toi, bien sûr.
Mais je suis sûr.
Ça veut dire
qu'il n'y a pas moyen de s'arranger.
Mais c'est pire avec les textos. Une preuve que
bien toi. Moi, je dis que c'est un scandale.
Alors, il y a un
texto,
autre.
C'est encore pire.
Il y a un autre danger. Bon, c'est vrai, je suis célibataire, moi, mais quand même.
T'as vu comment église des annonces discrètes ou pas?
Non. Parce que je ne l'ai pas toujours été. Et ça aurait été. Non, mais je vais. Enfin, si, j'avais rien à me reprocher.
Je sens que tu as fait une gaffe. Alors vas-y, dis-nous.
Je viens de changer de téléphone, je viens de prendre le fameux iPhone.
Oui.
Et alors, sur l'iPhone, c'est terrible, parce que quand vous recevez un texto, il s'affiche.
Je vais t'expliquer.
Il s'affiche au centre, même que vous ayez besoin d'aller chercher le
texto. Ça, c'est dangereux, ça.
Très dangereux.
Bien sûr, mais je te montre tout à l'heure, Laurent, si tu veux.
L'autre qui trompe pas sa femme, il a eu déjà.
Non, moi, j'ai arrêté tout ça.
Ah non, très dangereux, l'iPhone.
Je suis fatigué.
Ouais, t'es rangé,
c'est cool d'être fidèle. Ah, c'est vrai. J'ai découvert la fidélité, c'est extraordinaire.
C'est pour ça, c'est que maintenant que vous êtes gros, il y en a plus une qui veut de vous.
Alors, non. Alors là, par contre. Mais non. Il y a une petite option où tu peux mettre en les textos. Tu reçois un texto, on voit pas qui t'a envoyé.
C'est vrai.
Par contre, ce qui est dangereux, c'est de masquer le répertoire, tu sais.
Ah, c'est très dangereux.
Attends, bah, Christine, tu mets Christian, tu vois.
Ah, toi aussi, tu fais ça.
Non, moi, j'ai jamais fait ça, mais j'avais des copains qui faisaient ça.
Moi, j'ai fait ça. Maintenant, je peux le dire à Christine, bravo.
Et moi, j'avais envoyé.
Je peux le dire. C'est que je me suis servi pas mal du nom. Il y a longtemps, très longtemps, hein. Je me suis servi du nom de Christine, bravo.
Et oui, parce qu'il faut un nom où tu peux dire, oh, bah, c'est Christine, je décroche pas.
Oui, exactement. C'est-à-dire dire que
ça justifie une casse-couille.
Il y a quelqu'un qui me draguait, hein, et j'avais son numéro et j'ai mis le nom Christine Bravo.
Voilà.
Pourquoi? Parce que Christine était capable à l'époque d'appeler parfois dans la nuit, donc ça pouvait pas être ma mère par exemple, ça pouvait pas être quelqu'un du boulot, donc il fallait que je trouve quelqu'un qui était susceptible de m'appeler la nuit. Donc j'avais mis Christine Bravo. Ouais. Et dès que je voyais le nom de Christine Bravo s'afficher, je savais que c'était pas Christine, que c'était quelqu'un d'autre.
Voilà.
Et alors, donc, qu'est-ce que tu foutais avec ton mec?
Je pouvais dire au mec, excuse-moi.
Bien sûr. Mais... Et Christine qui envoie, viens me prendre à l'hôtel, mais c'est pas chelou, ça. C'est pas bizarre.
Il était d'une prudence de Sioux, hein, à l'époque. Alors que maintenant, il a mis, tu as affiché encoreapprendre.com, il a fait.
Mais par c'est contre... dégueulasse! Mais c'est vachement malin! Je vais le faire.
Oh, vous l'avez jamais
mais
fait.
Moi j'avais fait pareil avec mon comptable.
C'est vachement malin.
Moi j'avais envoyé avec, et je m'étais trompé d'ailleurs, j'avais envoyé mes relevés de compte à une copine, et tu m'excites à mon comptable. Il m'a répondu toi aussi.
Mais vous ne demandez pas à quoi j'avais inscrit votre vrai numéro à vous alors?
Non.
L'autre conne. En tout cas, le texto est désormais une preuve, a le statut de preuve d'après la Cour de cassation. Voilà, il faut évidemment que la justice suive le progrès technique.
Mais c'est dangereux, moi je trouve, parce que tu peux même te l'envoyer toi-même.
Comment ça?
Non, tu peux pas faire ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux prendre le téléphone. Voilà. C'est très
dangereux, ça, je trouve. Mais oui, tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, envoyer un texto, un faux texto, pour nuire à quelqu'un.
Ah non, des trucs aussi compliqués que ça, moi j'oserais jamais.
Mais attends.
Merci de votre pot de 23 millions.
Mais oui, c'est terrible.
Mais je ne peux pas l'accepter. Et après, tu dis, mais monsieur, il a décidé de me corrompre.
Mais oui.
Ah, les pervers.
Non, pas les pervers, c'est moi.
On va se gêner sur Europe 1.
Laurent Ruquier.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et mademoiselle Claude Sarraute.
Europe 1, on va gêner.
Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique.
Le président Sarkozy va-t-il recevoir pour la 7e fois demain?
Les banquiers.
Les banquiers, bonne réponse de Claude Sarraute. Ah, bravo Claude.
Alors là, je m'arrache. Hein.
Elle donne tout.
Je m'arrache, mais vous parlez de jeunes maintenant, Claude.
Ah oui, c'est un truc jeune. Non. On le disait déjà presque de mon temps.
Je m'arrache.
Ah ouais.
En tout cas, de mon temps, je m'arrache, ça veut dire je m'en vais.
Ouais, je me casse. Ouais.
Ah non, je me casse. Voilà.
On m'arrache.
Mais donc tu voulais partir en fait, quoi.
Non.
En tout cas, effectivement, les banquiers vont voir le président demain. Ils sont convoqués pour.
Ils doivent avoir peur. Mon Dieu, ils vont pipi dans leur culotte. Quelle histoire.
Ah oui.
Mon Dieu, quelle entrevue.
Ah oui, t'as raison.
Oh non, attendez, ça me dégoûte. Alors attendez.
Et il va l'obtenir son prêt ou pas alors?
C'est ça, je me dis, il y a un problème pour qu'il les voie 7 fois, c'est quand même.
Parce qu'ils lui disent merde à chaque fois.
Mais non, le pauvre, c'est qu'il veut les mettre au pas et qu'il n'y a pas moyen de mettre au pas les banquiers.
Mais si, il n'y avait qu'à prendre une participation.
Voilà,
tous les autres pays l'ont fait.
Oui, absolument, il fallait prendre une participation. Voilà. Mais tu ne veux pas quand même que tous ces trucs communistes et marxistes de la participation de l'État viennent dans notre beau pays de liberté, non?
Ouais, c'est exactement ça.
Alors voilà, avec vos conneries, voilà comment on est niqué par les banquiers. Évidemment, tu te rends compte qu'ils ont mis combien de milliards d'euros dans ce truc sans avoir la moindre participation. C'est-à-dire qu'ils ont payé les banquiers pour qu'ils continuent à faire comme avant. Ils font comme avant.
Sans
avoir le droit de mettre leur nez. Ils disent, vous pourriez donner peut-être des bonus moins chers. Fume, ils lui disent. Non mais sérieusement, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Le bon sens est resté près de chez eux, mais pas de chez nous. En tout cas, voilà, il va les voir pour une 7e fois et peut-être que là, il va leur dire, écoutez, je vous l'ai déjà dit 6 fois.
Oui, c'est la 7e fois que je vous le dis. Hein. À la 8e, vous risquez un avertissement. Après ça, à la
17e... Peut-être qu'il suit le vieil adage, peut-être qu'il n'aura encore rien dit parce qu'il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de leur dire vraiment ce qu'il faut. Vous voyez, c'est juste ça. Non, mais c'est assez étonnant quand même. Mais bon, ils y vont. En tout cas, ils viennent au rendez-vous.
C'est sympa.
Encore heureux, ouais.
Alors, il y a autre chose qui est étonnant dans l'actualité politique, c'est ce qu'a fait le maire de Courcouronnes, maire UMP, qui s'appelle Stéphane Baudet. Stéphane Baudet, maire UMP de Courcouronnes, a pris en stage pendant 2 semaines. Qui ça? C'est ma question. Qui, le maire de Courcouronnes, a-t-il pris en stage pendant 2 semaines?
Il est maire, il est quelle nationalité, quelle famille politique?
UMP, je vous ai dit. UMP. Ah,
c'est le fils de quelqu'un?
Non, 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 non.
C'est quelqu'un qui a plus du tout l'âge de faire un stage, en fait.
Oh, écoutez.
Ou qu'il l'a pas encore.
Oh, non, il y a une 30 ans, 32 ans même.
Ah, 32 ans pour faire un stage, comment
c'est lui qui a fait le stage?
Le fils de Sarkozy.
Non. Non. Non, non. Stéphane Baudet est maire de Courcouronnes, maire UMP, et il a pris en stage.
Et en stage de quoi?
Pendant 2 semaines.
En stage de poney?
Je vais vous dire, au service des ressources humaines de la mairie de Courcouronnes. Ça vous aide? Voilà.
Et hein, bah oui, un petit peu.
Pourquoi en stage de poney? Parce qu'il est,
Parce qu'il s'appelle Baudet?
mais c'est toi qui es un âne.
Mais c'est quelqu'un de connu alors.
Quelqu'un d'assez connu.
Alors c'est quelqu'un de connu qui n'est pas dans la politique.
Stevie Boulet?
Non, non, non.
C'est quelqu'un qui veut se lancer dans la politique?
Oh, se lancer dans la politique, non, ça m'étonnerait.
Est-ce que c'est le fils d'un homme politique?
Non.
D'une femme politique?
Non plus.
D'un chanteur?
Non. Non,
un artiste.
Non, non. Ça s'est
un milliardaire.
Ça s'est fait assez discrètement et on l'a appris la semaine dernière. On a appris que ce garçon de 32 ans avait été en stage pendant 2 semaines à la mairie de Courcouronnes.
C'est quelqu'un qui a fait une émission de télé-réalité, quelque chose comme
ça? Du tout.
Mais c'est un fils d'eux ou pas?
Non plus.
Non, non.
Ah bon?
Mais vous en avez entendu parler énormément dans la presse la semaine dernière.
Mmh. Ah, uniquement la semaine dernière, à l'occasion d'un fait divers ou d'un colloque ou d'un...
D'un sportif?
Non, c'est
un
pas
politique.
Un sportif. Non, c'est pas un politique, c'est pas un sportif.
Ah, est-ce que c'est par exemple un acteur qui va jouer le rôle du
non.
d'un futur maire
ou
quelque chose comme ça?
Ah, c'est un écrivain.
Non. Bec Bédé.
Non, 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 non.
Je vois bien Bec Bédé passer son été à Courcouronnes.
Qu'est-ce qu'il
c'est? Ah ouais, c'est un peu le VIP, ça nous emmerde.
En stage aux ressources humaines.
Ressources humaines à
Courcouronnes. D'accord, vous allez savoir de qui il s'agit.
C'est très étonnant.
Ça va vous surprendre d'être en stage aux ressources humaines à la mairie de Courcouronnes.
C'est quelqu'un de l'équipe?
Il a Rucci.
Non.
Il a besoin d'un stage?
Il avait besoin d'un stage, ça c'est vrai.
Voilà.
Carucci.
Mais il avait besoin ou elle avait besoin?
Il avait besoin.
Alors, tu as besoin d'un stage? Il y a besoin d'un stage quand, par exemple, tu
fais une école.
Tu fais une école.
Il n'était pas à l'école. Même vas-y. S'il vient de passer son BTS, c'est vrai.
Un stage genre de réinsertion, par exemple, après avoir fait de la prison ou un truc comme ça.
Bravo.
Ah, bah voilà.
Et bien Maxime Brunnery.
C'est Maxime Brunnery, l'homme qui avait tiré sur Jacques Chirac. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Souvenez-vous, le 14 juillet 2002, il avait tenté d'assassiner le président de la République. Il était à l'époque militant d'extrême droite. Il paraît qu'il ne l'est plus. Il a en tout cas été élargi le 3 août dernier. Ça veut dire que...
En prison, ça arrive souvent. Oh non.
Oh non.
Oh, j'ai l'impression que Fabrice est beau et c'est bon.
Et à 32 ans, il est sorti de prison. Et pour sortir, il a d'abord été, ça je l'ignorais, il a d'abord été en semi-liberté avant de sa sortie définitive. Ça, c'est le Parisien qui nous le racontait dimanche. Il a eu un régime de semi-liberté pendant lequel il a effectué un stage de 2 semaines au service des ressources humaines de la mairie de Courcouronnes. Ça s'est fait évidemment très discrètement, hein. On vous disait pas, tiens, le type qui est aux ressources humaines, c'est le mec qui a tiré sur Chirac.
Ouais,
mais quand même, c'était assez gonflé de la part de la mairie de Courcouronnes.
Moi, je trouve pas que c'est tellement gonflé. Moi, j'étais maire de Sucy-en-Brie. Et tu sais qui j'ai pris en stage? Ravaillac. Je te jure. J'ai pris Ravaillac il y a longtemps.
Et il fallait une deuxième chance.
Non, mais il paraît qu'il s'agit d'après son avocat.
Bien sûr. Ouais. D'abord, un mec qui a été militant d'extrême droite peut pas être un salaud, c'est un type qui aime son pays.
Ça me fait des valeurs.
C'est pas un salopard comme comment tu l'appelles le type qui a pas un nom français, Miller là. Non, ça c'est un vrai français.
Il a tourné la page sans aucun ressentiment et il
bah, heureusement qu'il n'est pas de ressentiment lui.
Il est pas rancunier.
Ouais.
Voilà, mais là il a trouvé un job. Il avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Finalement il en a fait 7 avec les remises de peine.
Ah, 7 ans il a fait quand
alors
même.
Alors qu'est-ce qu'il fait?
Bah oui, c'était en 2002.
Il est maton, il est quoi?
Ah bah non, maintenant je sais pas ce qu'il fait, on nous dit pas, on va être discret. Ça, évidemment, on préfère ne pas nous dire évidemment exactement où il est. C'est après qu'on nous dit où il était, mais on va pas nous dire aujourd'hui. Ouais. Tiens,
t'as raison.
Franchement,
franchement.
On sait jamais. Ça se tombe, les Chirac viennent de l'engager comme
comme majordome.
Garde de corps.
C'est le nouveau babysitter du chien.
Ça se tombe, c'est lui qui promène le chien.
Je vous prends comme garde du corps, quoi, vous m'ayez prouvé que vous tiriez mal.
Moi, ce qui m'amuse, c'est quand même ce maire UMP, il doit pas être chiracien pour avoir évidemment pris le mec qui a tiré sur Chirac. Il c'est peut-être sûr. Sarkozyste, non peut-être.
Voilà, non, sûrement. Non, pas.
Non.
Le plus vraisemblable, c'est que Chirac se tient au courant quand même du séjour en prison de ce type qui a tiré sur lui. Hmm. Comme le pape avec le
ah oui c'est pas
le
bête.
Turc, et puis il dit qu'est-ce qu'il devient celui-là, et puis voilà, le train, il dit un court-couronne, peut-être qu'il y aurait peut-être un petit job pour lui, pas à l'armurerie mais au ressources. Voilà. Moi je vois tout à fait au contraire ce genre
moi je me méfie des politiques. C'est comme Martine Aubry qui a offert le vélo de
Sarkozy.
Sarkozy, vous avez vu que le vélo qu'utilise Nicolas Sarkozy là-bas pendant ses vacances était le vélo que lui a offert Martine Aubry. Ah ouais. Je veux dire, elle est même pas capable de trafiquer un vélo, c'est quand il a un malaise quand il court.
Ah ouais.
C'est quand même. Oh, on n'était pas là quand le président de la République a fait son malaise.
Vagal.
Moi, je me suis rappelé que j'avais fait, souvenez-vous.
Un malaise vagal. Mais... Oui, tu t'étais bien éclaté la gueule.
Ah ouais.
Mais aussi, où quand
il m'avait gardé plus longtemps que le président de la République. Je me suis dit, tiens, quand même, je suis important.
Chérie. Où tu t'es fait ça?
Chez moi, j'avais fait un malaise vagal et je m'étais éclaté la gueule sur le carrelage de la salle de bain. Heureusement, Joujou.
Je l'ai porté à bout de bras jusqu'à l'hôpital. Hein.
Mais voilà, c'est anodin un malaise vagal, hein, Pierre.
C'est anodin, mais ça file le trac. Hein.
Vous aviez suivi le petit malaise du président, Claude?
Oui, mais je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire vagal?
Expliquez, Pierre.
Non, ça va être chiant. Non, c'est pas la peine.
Mais t'es dégueulasse avec Pierre.
Mais je l'adore, Pierre, c'est mon fiancé. Non.
Soyez gentils, adorez-moi un peu moins et respectez-moi un peu plus. Voilà.
Dans un instant, nous retrouvons Serge Liadeau.
Europe 1, on va se gêner.
Do-ré-mi fa-si.
Do-ré-mi fa-si. Liadeau.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut à tous. Salut,
les vacances ont été bonnes?
Ouais, j'y suis encore, j'ai les cigales dans la tête.
Est-ce que vous avez bien travaillé pendant l'été, déniché des ressemblances, trouvé des disques qui font peur?
Oui, j'ai tout ça. J'ai des petites perles, j'ai des ressemblances et puis on aura quelques hallucinations en stock.
Alors, on commence par une ressemblance entre un générique de feuilleton, je crois, et du Mozart carrément.
Vous savez, c'est pas du Mozart, c'est le fameux opéra rock, Mozart opéra rock, qui va bientôt passer sur scène au Palais des Congrès en septembre.
Et qui fait un carton en termes de vente de singles.
Ça marche très bien. Le premier single a été numéro un des ventes en effet pendant 5 semaines. Et là, le second single est sorti en mars. Ça s'appelle Vivre à en crever. C'est un duo qui oppose Mozart, joué par Michelangelo Loconte, et Florent Motte, qui lui joue Salieri, qui est son ennemi juré.
Et ça marche très fort aussi, Vivre à en crever. On entend ça un peu partout. Hein.
Ça marche super bien. Sauf que le refrain ressemble à autre chose. C'est le générique d'un feuilleton américain, Smallville. Voilà, et donc les refrains sont vraiment jumeaux. Voilà, c'était. Je crois que ça vaut le coup de les écouter. On commence bien sûr par le plus ancien, c'est-à-dire Smallville, qui date de 2001.
Donc le générique de feuilleton d'abord, et puis le nouveau tube du moment, extrait de l'opéra rock Mozart. Je n'ai pas vu la différence, pour tout vous dire, Serge Liadeau. En même temps, je me demande si je me suis vraiment intéressé.
L'un était en français et l'autre en anglais, tout simplement.
Ah, ben voilà la différence, alors, exactement. Ça va être bien, vous pensez, cet opéra rock Mozart?
Bah, ça va bien marcher, en tout cas, les réservations sont bonnes.
Mais hein, c'est lui qui a écrit Mozart?
Non, non, ils utilisent des airs de Mozart, mais la plupart des chansons ont été écrites par toute une équipe. Il y a Patrice Guirao, il y a Dovatia.
Mais là, par exemple, c'était un air de Mozart ou pas, là?
Non, pas du tout, c'est Rémi Lacroix qui a écrit cette musique.
Non, on confond Patrick Dovao, Rémi Lacroix et Mozart. C'est des œuvres absolument,
oui, oui.
absolument voisines. Quoi.
Et Véronique Sanson dans tout ça?
Alors, Véronique Sanson, ça c'est une petite perle. Par charité, on appelle pas ça des désastres. C'est un enregistrement impromptu, ça date de 2005. Elle était invitée en direct sur la bande FM et disons qu'elle s'est lancée dans un tube qui n'a peut-être pas eu le retentissement qu'elle espérait, et je pense que c'est tant mieux.
Il faut absolument que je pète, ou sinon je vais mourir. Il faut absolument que je pète. Il faut absolument que je chie. Je ne sais pas ce qui m'arrête, mais il faut absolument que je chie.
C'est pas la vraie Véronique Sanson.
C'est absolument la vraie Véronique Sanson.
Elle était mariée avec Pierre Palmade, avec Bigard, là, je comprends pas.
Elle est comme ça, elle peut se marrer en concert avec ses potes.
C'était en direct sur RFM à l'époque, c'est ça?
Oui, c'est ça, et on peut voir la vidéo sur YouTube si vous ne me croyez pas, parce que si la voix est ressemblante, le physique aussi. Hein.
Enfin, quand vous dites, elle s'est lâchée, il faut faire attention à ce que vous dites.
Ah, ça c'est des tubes, on n'en voit pas le bout.
Bravo Serge, en tout cas, pour ces deux trouvailles.
Merci, à demain.
En photo ce week-end dans la presse, Marion Jolès. Marion Jolès est animatrice. Et on découvre aussi dans la presse qu'elle est donc la fiancée de... Mais de qui, Marion Jolès?
Du pilote de Formule 1, le petit jeune, le nouveau français là.
Et qui s'appelle?
Qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus. Il s'appelle...
Julien Sorin.
Quoi?
William Sorin.
William Sorin.
Non, mais comment il s'appelle?
Tiens, c'est pas dans des boîtes de conserve qui courent.
Ah, si, parfois.
Julien Sorel.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Comment il s'appelle?
Oncle Benz.
Bon, c'est une bonne réponse.
Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est la fiancée de Romain Grosjean. Bonne réponse.
Ouais, c'est facile, ça ressemble quand même. Romain Grosjean et William Sorin.
Oh, c'est vrai.
William, c'est vraiment Sorin. Voisin.
Le Français qui a pour la première fois été pilote de F1. Hier.
Mais il est français ou il est suisse?
En course. Ah, on sait pas trop. Alors là, on nous a dit qu'il était suisse. Nous, on nous dit qu'il est français. Il y a eu quand même un communiqué.
Et Johnny.
Ah bah, Johnny, on sait qu'il est belge. Mais, suffit d'écouter. Mais n'en déplaise aux Suisses, il paraît que, chez Renault, on affirme qu'il est français. Mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est que, parce que qui c'est, la petite Marion Jolès?
Oui, c'est la brune qui serait jolie, là, qui est sur TF1.
Regardez, Christine, elle ne s'intéresse pas aux autres animatrices.
Si, mais dis-moi qui c'est. C'était... Qu'est-ce qu'elle anime?
Elle anime Automoto.
Ah bah, d'accord.
Excuse-moi. Mais il paraît qu'elle va peut-être faire tourner manège aussi.
Excuse-moi. Mais alors, Automoto, je ne regarde pas.
Elle, c'est normal qu'elle soit avec un pilote de Formule 1 puisqu'elle anime Automoto.
Ah bah ouais.
C'est comme si Maïté épousait Alain Ducasse, vous voyez.
Oui, enfin d'accord. Ou alors, j'ai pas épousé un coureur cycliste, hein. J'ai fait le Tour de France, attends.
Ah bah si, alors... vous avez épousé un commentateur du Tour de France.
Non, c'est pas
alors
un commentateur.
Alors moi je sais autre chose.
Quoi?
Tu sais ce garçon qui s'appelle Domenech?
Oui,
Domenech. Il a une copine qui fait une émission sur...
M6, Estelle Denis, oui.
C'est pas une copine, c'est la mère
foot, sur le foot.
Oui. Non, c'est fini, elle fait plus le foot.
Ah bon?
Elle fait plus.
Elle fait 100% mag.
Non, mais c'est un bon exemple que donnait Claude, vous voyez, c'est à peu près la même chose, effectivement. Bah,
mais ils sont mariés déjà, vous avez rien compris, ils sont mariés pendant l'été en secret, personne le sait, voilà.
Quand cet été, là?
Bien sûr, j'étais au mariage.
C'est pas vrai.
Ils t'ont invité à leur mariage?
Bien sûr.
Et vous dites ça comme ça, annulez Vermus, on a le scoop.
Hey, putain, la super bonne copine, personne ne... Mais oui, mais bien sûr, personne ne le sait, ils ont dû ne pas le dire.
Domenech et Estelle Denis sont mariés.
Ils sont mariés.
Vous nous l'assurez.
Mais elle a raison, c'est pas un secret. Non, secret, c'était la date pour pas être emmerdé par les journalistes. Mais une fois que c'est fait, c'est fait.
Mais vous étiez au mariage
et
tout.
On était quatre.
Comment ça, quatre?
Bah, il y avait sa mère, moi, et puis eux.
C'est-à-dire que t'es aussi importante pour elle que sa mère.
Ouais, bah voilà.
Ça fait peur. Hein.
Mais comment vous avez fait pour être sélectionné?
Ah ben. Il nous a tirés au sort.
Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions.
Laurent Ruquier et ses acolytes, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Profitez-en bien.
Qui a sa chambre tapissée de photos du président de la République, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi et de George Bush?
C'est Maxime Brunery et c'est un très mauvais signe.
Non.
Cinglé.
Non.
Ouais, malade.
Qui a sa chambre tapissée de photos du président de la République, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi et de George Bush?
C'est quelqu'un qui est célibataire.
C'est une cellule de prison.
C'est le juge qui va traiter l'affaire Calistré.
Et en plus, c'est quelqu'un qui porte des talonnette et qui écoute en boucle des chansons de Carla Bruni.
Sarkozy.
Non.
Ouais, c'est vrai qu'il doit avoir des photos de lui dans sa chambre.
Non, quand même. Claude.
Et comment on sait qu'il porte des talonnettes?
Ah bah parce que je vous le dis, je le sais.
Michel Sardou?
Non.
Il y a des...
Il y a un sketch célèbre de Michel Sardou.
C'est vrai.
Sa mère lui dit, enfin, tu portes des talonnettes. Oui, j'ai des talonnettes.
J'imagine que Michel Sardou a pas des posters de Nicolas Sarkozy dans toute sa chambre et qu'il ne chante pas du Carla Bruni toute la journée.
Est-ce que c'est un nain?
Un nain, non. Pourquoi? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas une très grande taille, ça. Alors, c'est sûr.
Jérémy Michalak.
Jérémy?
Non. Joujou? Non, si vous suiviez un peu l'actualité.
Je suis pas le seul nain en France, quand même.
Alain Prost?
Non.
Attends, c'est un acteur. Mais on n'ose plus
c'est
balancer.
C'est un acteur, oui, évidemment.
Ah, donc c'est dans un film.
C'est dans un film, évidemment.
Jacques Chirac.
Mais
qui joue, qui bien sûr, qui est à l'affiche du prochain.
Mais ton pote là, comment
Mon pote.
Camping.
Mon pote.
Est-ce que le film est
Franck
sorti?
Dubosc.
Ah, Franck Dubosc. Non.
Est-ce que le film est sorti?
Le film est sorti.
Pendant l'été.
C'est la fin du monde là?
Non. Ah bah voyez, je vois.
Alors c'est pas dans G.I. Joe, hein, ils ont pas de poster de Sarkozy.
Mais on n'était pas là.
On n'était pas là.
On était en vacances.
Vous êtes censé travailler.
On était à l'étranger. Il y a pas les journaux.
Vous revenez ici.
Il y a pas les journaux.
Il y a pas les journaux à l'étranger. Et Internet. Vous en faites quoi d'Internet?
Oh bah on fait autre chose.
Il y a pas les connexions.
C'est un énorme
le
succès.
Parrain.
Quoi, le parrain?
C'est le film. Oui,
le parrain qui vient de sortir au cinéma.
C'est le parrain qui vient de sortir au cinéma.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non.
Un film de Jacques Audiard.
Pas du tout. Et d'ailleurs, le film de Jacques Audiard sort mercredi prochain. Et ça s'appelle pas Le Parrain, mais Le Prophète.
Est-ce que c'est un film français?
C'est un film français.
Ah, mais c'est le truc qui cartonne, qui s'appelle
Neuilly
ta mère. Neuilly ta mère. Bonne réponse.
Non, c'est moi.
De Jérémy Michalak et Claude Sarraute. Et oui, Neuilly ta mère, puisque le gamin qui vient de banlieue et qui est plongé d'un seul coup dans un cadre familial très très différent à Neuilly sur Seine, c'est le principe de ce film. Ce gamin rêve de devenir homme politique, président de la République, et donc son idole, c'est Nicolas Sarkozy. Sa chambre est tapissée de photos du président, d'affiches UMP, de portraits de Rachida Dati, de Berlusconi, de Bush. À un moment donné, d'ailleurs, quelqu'un lui propose de remplacer un de ses posters dans le film par la photo de l'actrice Charlize Theron. C'est Laurent Neumann dans Marianne qui nous raconte ça. Et il dit, le gamin, il dit, ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes. Je comprends que le film ait du succès. C'est plutôt... rigolo. Il porte des talonnettes dans le film. Il écoute en boucle des chansons de Carla Bruni. Il se présente, parce qu'il faut bien commencer par gagner des élections, il se présente évidemment aux élections de délégué de classe et il perd. Et là, dans le film, il dit « Je suis un loser, je suis baladur. » Et le film cartonne, évidemment, sur les écrans depuis...
J'y vais dimanche.
C'est vrai?
Ouais.
Le film s'appelle « Neuilly, sa mère ». Allez le voir, manifestement, ça fait rire des salles entières depuis que ce film est sorti. Marianne dit « Il n'y a pas eu beaucoup de pub au moment de la sortie du film, il est sorti discrètement. » Vous l'avez remarqué.
Mais
ça.
Oui,
pour vous, oui, Christine, c'est sûr.
Il est sorti cet été.
Oui, il est sorti il y a 15 jours.
Il n'y a pas eu 20 lignes dans la presse mexicaine.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Alors Paul, est-ce que vous nous avez trouvé les réponses aux questions qu'on vous a posées dans la toute première heure d'émission? Nous vous transformons désormais en journaliste d'investigation. On veut en savoir plus sur tout. Alors j'ai envie de commencer par Michael Jackson à Vienne. Pourquoi le concert hommage à Michael Jackson se passe-t-il en Autriche?
Alors c'est tout simple. Hein. C'est tout simple, c'est que le concert, il devait avoir lieu à l'Arena de Londres, au stade. Et puis, les Britanniques sont pas entendus financièrement avec les Jackson. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, Laurent? J'ai appelé la famille Jackson.
C'est pas vrai.
Si, j'ai appelé Germaine Jackson.
Bien sûr. Bon, et Joe.
Germaine Jackson, c'est le frère.
Germaine, oui. c'est
un mec.
C'est pas un pays de cons, Germaine, c'est un nom de mec.
Alors, j'ai appelé Germaine Jackson. Je l'ai pas eu. Et ensuite, j'ai appelé le service de communication. Vous voyez, je vous dis tout tel quel.
Hein. Et alors, ils vous ont dit quoi?
Je vous dis, il y a plusieurs choses. Pourquoi Vienne? Vienne, d'abord, c'est le berceau de la musique. Il y avait un enfant star qui s'appelait Mozart. Il était admiratif de Mozart. D'autre part, Michael Jackson avait une folie. Il était complètement omnibulé par les châteaux, les châteaux un peu baroques. Et à Vienne, on en trouve. Alors bon, la troisième raison, elle me paraît un peu idiote, il adorait les pâtisseries viennoises, parce qu'il allait régulièrement à Vienne. Bon, ça...
N'importe quoi. Bon, il a même eu réputation de toucher aux valseuses.
Oui. Et puis, bon, en Autriche, bon...
Je peux faire son boulot, moi, c'est pays, chez moi.
Laurent. L'Autriche, c'est quand même le pays où l'on enferme le plus d'enfants dans les caves, hein.
Ah, oui.
Ah, bah, voilà l'explication. Eh, oui. C'est un hommage à Joseph Fritzl, bien sûr. Ouais.
Alors, j'avais pas pensé à ça. En première partie, c'est Natacha Campouche.
Vous me direz qu'il aurait pu faire un hommage à, on aurait pu faire cet hommage à Euro 19, puisqu'il aime les châteaux, puisqu'il y a plein de petits-enfants, c'était de circonstance. Bon, il a choisi l'Autriche. Alors, je peux vous dire que toutes les places sont parties, Laurent, en 60 minutes. Ah ouais. Les 80 000 places sont parties en 60... Les 85 000 places.
C'est pas mal. Moi,
je me souviens, à 17h, c'était plein.
L'autre question que je vous ai posée, cher Paul, concernait cette mère de famille qu'on a recherchée pendant plusieurs jours, alors que finalement, elle était en vacances avec ses enfants dans un camping du Midi de la France. On la cherchait au Grand Bornand et on a appris par hasard que son mari qui a donné l'alerte était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça a joué sur le fait que l'opération ait tant été médiatisée?
Bien sûr que ça a joué. Ça a d'autant plus joué, Laurent. D'abord, c'est un technicien. C'est un technicien au ministère de l'Intérieur.
C'est quoi un technicien?
On ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce qu'il s'occupe des affaires sensibles? Est-ce qu'il s'occupe de l'informatique?
Ou alors du ménage?
Peut-être la torture.
Il s'appelle Monsieur G. Et il est technicien au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bon.
Et c'est lui qui a alerté, qui a fait tous ramdam, alors?
Bah, il fait tous ramdam, ça va très vite, hein. Il suffit qu'il... Alors, il a eu le droit, puisqu'il est policier, à une enquête pour disparition inquiétante, qui est ouverte par le parquet d'Annecy, donc ça va 10 fois plus vite. Mais alors, attendez, le hasard. C'est qu'elle a été reconnue, Laurent, Sophie G. Sophie G a été reconnue par le gérant d'un camping, qui est réservé au personnel de la police et du ministère de l'Intérieur, à Vienne-sur-Mer.
Putain, ça doit picoler là-bas. Hein. L'apéro est...
Elle manque pas d'air, quand même.
Voilà.
Elle quitte son mari, elle va à la police, alors qu'il est de la police.
Donc, c'est un camping pour les flics, immédiatement. Donc, alors, bien sûr que ça a joué.
Ça, je ne savais pas. Là, vous nous apprenez quelque chose, Paul.
Formidable.
Oui, ça a joué parce que c'est grâce à... vous savez, il y a au chapitre disparition inquiétante, ça va beaucoup plus vite qu'une disparition, ce qu'on appelle disparition anonyme. Disparition inquiétante, c'est vraiment le signal rouge. Hein.
Troisième question, l'affaire du supermarché de Villeneuve-le-Roi. Est-ce que la direction d'Intermarché a subi des pressions de la part du ministère pour dédouaner Luc Chatel dans cette affaire, on va dire, de figurante qui était dans les rayons au moment où il devait parler de la rentrée scolaire devant les caméras.
Laurent s'est emmerdé parce que c'est une histoire de corne de cul. Enfin bon, c'est une histoire de corne de cul parce qu'il y a un an, jour pour jour, en août 2008, est arrivée la même histoire à Nadine Morano.
C'est vrai.
C'était dans un hypermarché marseillais. Bon, alors... déjà, moi, vous me direz, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé d'abord l'UMP, hein. Alors déjà, la première chose, Laurent, c'est qu'on m'a certifié, vous savez que la cliente interrogée par le ministre Chatel s'avérait être conseillère municipale.
Non, tout le monde sait que c'est faux.
De Vulaine-sur-Seine. Ça, c'est parfaitement exact, hein. Personne n'en doute.
Elle n'est pas UMP, mais elle est conseillère municipale.
Voilà, mais elle n'est pas UMP. À l'UMP, ils me disent, on n'a donné aucune consigne. Bon, donc, la grande surface, elle bat sa coulpe, en quelque sorte. Ils disent, oui, c'est nous qui avons réuni le
casting,
personnel pour remplir le restaurant, hein.
Ouais.
Voilà.
Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça ma question.
Ouais, ben bien sûr, j'ai compris votre question. Je suis pas complètement imbécile, hein. ils ont invité un certain nombre de salariés pour dédouaner le ministre.
Sauf que dans Le Monde ce week-end, moi j'ai lu que les salariés d'Intermarché disaient, si c'était des gens qui travaillaient avec nous, on le saurait. On se connaît tous. Ça ne serait pas passé inaperçu.
Alors j'ai l'information, Laurent. Bon, direction d'information, la direction d'Intermarché, je cite la marque, le grand siège dit, je vous ai donné la réponse officielle. Mais le directeur d'Intermarché de Villeneuve-le-Roi, Ouais. Il s'appelle Monsieur Fouillat. Alors j'ai fouillé pour trouver Monsieur Fouillat.
Ouais. Hein.
Voilà. Eh ben Monsieur Fouillat a disparu. Je vous explique. Il n'est pas à son bureau. J'ai son portable. Je ne l'ai pas trouvé. On a été même enquêté rue de la Boétie et sur les 6 étages, on l'a pas trouvé parce que Monsieur Fouillat, il aurait pu être finalement militant UMP, ce qui n'est peut-être pas le cas. L'affaire reste floue.
Vous n'êtes pas en tout cas capable de me dire, Paul, si c'est vraiment Intermarché qui a recherché ces dames, on va dire, très gentilles dans les allées des rayons qu'a carpenté le ministre.
J'ai interviewé certaines vendeuses aussi.
Et ça pourrait pas avoir un rapport avec la
Non, j'ai interviewé certaines vendeuses et ce qu'elles m'ont dit. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Il fallait remplir le magasin, voilà, c'est tout. Il y a eu une histoire identique, vous vous souvenez, avec un ministre et des figurants. Ben, disons que c'est un peu la même histoire, quoi, voilà. C'est du personnel aimable, voilà.
Il paraît même, d'après les journalistes, que les dames qui avaient leur caddie rempli de fournitures scolaires, avant de partir, une fois que les caméras étaient éteintes, elles ont remis les fournitures dans les rayons.
C'est vrai.
Mais oui, je jure.
Elles sont parties en autocar.
Vous savez, Laurent, quand c'est politique, il faut toujours attendre un petit moment pour avoir la vérité. Là, ce que vous me demandez, bon, j'ai une réponse un peu de Normand, on aura la vérité un jour.
Hein, vous êtes un peu trouillard, en fait. Vous êtes un peu trouillard, en fait.
Plaisantez ou quoi? S'il y a un type qui prend des risques chez vous, dans votre équipe, c'est bien moi. Hein.
Alors, dernière question. Est-ce que les ventes des chaussures Orange d'Usain Bolt ont progressé dans les magasins de sport?
Alors, je peux vous dire que j'ai la réponse. Ah. C'est la chaussure Puma Yam. Vous voyez, c'est le nom. Et Yam, c'est le nom d'un bistrot très célèbre à Berlin. Ouais. D'ailleurs, où aujourd'hui, il va faire des signatures. Alors, ce qui se passe, il y a un package en rupture de stock. Dans le package, il y a le t-shirt, la casquette et le sac Bolt. C'est en rupture de stock. Vous avez la chaussure orange, la fameuse Bolt Yam. Elle est en cours de livraison, c'est-à-dire que les magasins vont commencer à la recevoir probablement à partir d'aujourd'hui. On note déjà en tous les cas pour les produits de la marque 20 à 30% d'augmentation. Ah ouais. Je peux vous dire que les Jeux Olympiques de Londres, du coup, ils ont décidé de dessiner toute une collection à l'effigie de Bolt, la collection Bolt.
Et pour Susan Bolt, ils en sont où?
Elle a des chaussures orange aussi, mais elle court moins vite. Paul, pour toutes ces informations, je n'ai qu'un mot. Bravo.
Bravo.
Et on se retrouve, évidemment, attention, après le flash de 18h, parce que nous sommes là une demi-heure de plus désormais chaque jour. Et dans un instant, il faudra, pour mes chroniqueurs, deviner qui se trouve dans la loge d'honneur. À tout de suite, après les infos, on va se gêner, c'est jusqu'à 18h30.
Et oui, jusqu'à 18h30, notez-le bien, c'est le nouvel horaire dont va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier avec tous ses acolytes.
Nouvelle rubrique, nouveau mystère. Voici la loge d'honneur.
Chaque jour, un invité d'honneur dans la loge du même nom. Il sera avec nous dans ce studio dans quelques minutes. Mais d'abord, il s'agit pour Claude Sarraute, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Titoff de deviner de qui il s'agit. Vous avez le droit à toutes les questions. Notre invité, lui, ne pourra répondre que par oui ou par non. Ou quand il hésitera, il tentera de répondre par des phrases courtes. D'abord, invité d'honneur dans la loge d'honneur, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui. D'abord, je vais te dire, t'es un homme ou t'es une femme?
Ben oui.
Vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre à un homme. Tant que c'est court, ça marche.
Est-ce que t'es un homme?
Oui. Est-ce que ta voix naturelle est proche de celle qu'on entend?
Il peut pas savoir quelle voix on entend. Posez des questions plus intelligentes.
Est-ce que tu es un écrivain?
Oui.
Mais on le tutoie. Oh, bah bravo Pierre, comment d'un seul coup vous pensez que c'est un écrivain?
Eh ben parce que je suis moins con que les autres.
Est-ce que tu es un écrivain de moins de 40 ans?
Oui. Oh bah ça y est, je sais, t'es Bec Bédé.
Bec Bédé.
Mais Bec Bédé, on parle.
Il est
de
à Courcouronne, on t'a dit, il a été occupé.
Je vous signale qu'il y a je sais pas combien 600 bouquins qui sortent, donc bonne chance.
Marc Lévy.
Marc Lévy, non.
Est-ce que c'est un premier roman?
Non.
Est-ce que vous avez vendu beaucoup?
Il a déjà vendu pas mal. Moi, je vais répondre à sa place. Il joue modeste, mais il a déjà vendu pas mal.
Ce que vous écrivez est un peu érotique?
Non. Est-ce que tu es romancier?
Oui. Est-ce que tu fais uniquement romancier?
Je vais vous donner un indice, parce qu'il faut quand même que je vous aide. Il y a 9 ans, notre invité d'honneur était encore un branleur.
Quoi ?
Ah oui, donc il a écrit un truc comme quoi il branlait, et donc c'est le mec de Perry Cochin.
Pas du tout, aucun rapport.
Donc je peux le connaître, quoi.
Spermato, machin.
Est-ce que tu appelles un branleur ? C'est un métier ?
Non. Mais non, il a écrit,
il y a des études pour
ça. Il a écrit un livre qui a un rapport avec la masturbation.
Il a un CAP branleur.
C'est ça ?
Non.
Est-ce que tu es breton ?
Non.
Comment mais ça, un branleur ?
Il joue du branle, l'instrument de musique ?
Un branleur, non. Il foutait rien, quoi.
Ah, vous êtes de la famille de Titoff. Est-ce qu'on a déjà critiqué un de vos bouquins dans cette émission, par exemple, l'année dernière ?
Non. Est-ce qu'il y a eu déjà un film tiré d'un de vos livres ?
Non. Mais ça aurait pu.
Oui, enfin, ça aurait pu.
Parce que, je vais vous aider un peu, notre invité d'honneur écrit, mais réalise aussi.
Ah, Yann Moix.
Non.
Est-ce qu'il y a un de vos films qui est sorti l'année dernière ?
Ah, oui. Oh, mais je sais, c'est Patrick Lecomte. Patrice Lecomte.
Non, pas Patrice Lecomte.
Il y a un nouveau film qui est sorti l'année dernière.
Oui.
Il a marché ?
Oui.
Et d'ailleurs, pour faire référence à ce film, et ce sera l'indice supplémentaire, notre invité du jour peut très bien rentrer dans ce studio en hurlant, une cagoule sur la tête et une arme à la main, parce que c'est un peu son rêve.
Quoi ? De braquer une banque ? Olivier Marchal ?
Non.
Rien à voir avec Audiard ?
Non, rien à voir avec Audiard.
C'est super dur.
Ah, c'est super dur, c'est normal.
Je comprends pas. Il est branleur, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est sur
et
branleur.
Après, il rêve d'être un gangster.
Faites attention à ce que vous dites, c'est peut-être le pape qu'on a dans la cour d'honneur.
Écoute, mon amour, c'est toi qui l'as dit qu'il était branleur.
J'ai pas dit ça.
Il y a 9 ans.
Il y a 9 ans, c'était encore un branleur.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je vais vous aider.
C'est lié à un de ses films. C'est lié à un de ses films d'il y a 9 ans. Le fait qu'il y a 9 ans, c'est...
Non, c'était un livre, il y a 9 ans.
Ah, c'était un livre.
Mais il y a eu déjà quelques films. Est-ce qu'on a un indice musical qui pourrait aider nos camarades ? Écoutez.
Summer time, time, time.
C'est un indice.
Ça, c'est
John Lennon.
Elle est con.
Donc, c'est Imagine.
Et avant, c'était
Janis Joplin.
Et avant, c'était Summertime.
Janis Joplin.
Janis Joplin. Imagine, ah bah, quoi ? C'est un mec qui a fait Keta Woodstock ?
Non, 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 mais alors là, quand même, est-ce que...
On peut pas avoir une photo ? Comme un indice, on peut pas avoir une photo ?
Ouais, ce serait...
Pour nous aider.
Ou juste un nom de famille.
Alors, je m'adresse à notre invité d'honneur. Là, c'est un bon indice quand même que je leur ai donné, non ?
Ouais.
Oui, c'est Ben Chetrit.
C'est-à-dire ?
Samuel Ben Chetrit.
Bonne réponse de Christine, bravo !
Voilà, parce qu'il a écrit un livre, effectivement.
Pas écrit un livre.
Qui est vachement bien, d'ailleurs. Il a écrit des nouvelles. Non, mais attends, il a fait un bouquin avec des nouvelles qui est pas mal du tout. En plus, c'est incroyable, avec sa belle gueule. Il écrit pas mal. Et il a fait un film génial avec Janis Joplin.
Samuel Ben Chetrit était le premier invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Finalement, vous avez trouvé assez vite.
Ouais, j'ai trouvé.
Comment ça, vous avez trouvé, Christine ?
Et le film, c'était...
Janis et John,
voilà,
évidemment.
Janis et John.
Mais c'est pour Le cœur en dehors, le nouveau roman qu'il publie en cette rentrée littéraire, que Samuel Ben Chetrit a accepté de jouer le jeu avec nous. Bonjour Samuel, et merci d'abord.
Merci, mais
je crois que ça vous va bien, finalement, d'être caché pour répondre
ça
à des questions.
Ça fait plaisir, ça.
Christine veut dire qu'il a une belle gueule.
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais il a une belle gueule, mais il est plutôt timide.
Moi, je suis assez timide, mais je me disais que vous trouverez jamais, quoi. Je me suis dit, ça va durer longtemps.
C'est Janis Joplin, moi, qui m'a fait trouver. Effectivement, il est plus connu comme réalisateur que comme écrivain. Il a fait qu'un bouquin.
Ah, quand même, c'est parce que...
Mais moi, j'ai vraiment toute honte parce que je l'ai lu le compte rendu de ton livre.
Eh ben oui, on va en parler.
Mais t'es pas là depuis carrément le début de l'émission, j'espère.
Non.
Il faut préciser à Claude que je me suis permis de dire qu'il y a 9 ans c'était encore un branleur, c'est que votre premier livre c'était justement le récit d'un branleur, c'est bien ça.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Il y a eu ensuite les chroniques de l'asphalte.
Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, moi.
Deux tomes, on attend les suivantes. En quelque sorte, on est un peu dans le même univers avec Le cœur en dehors, puisqu'on est en banlieue et on suit les aventures. Est-ce que c'est le mot ? Vous allez me le dire, mais en tout cas, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Charles, surnommé Charlie, J'ai lu le bouquin en une journée hier, tellement j'ai adoré ça et j'ai dévoré ce livre. Et ce Charlie, il se demande pourquoi, je raconte le début du bouquin et après je vais vous laisser faire la suite, il se demande pourquoi on est venu chercher sa mère. Il assiste au moment où des flics viennent chercher sa maman dans son immeuble. Et le petit Charlie va chercher à savoir pourquoi on est venu chercher sa maman. Et pour ça, il faut qu'il retrouve son frère qui est perdu un peu dans la cité.
Attends,
qui
mais
se
ça se passe pendant l'occupation.
Pas du tout.
Non, mais c'est bien de dire ça, je trouve.
Mais c'est, ouais, c'est
une obsession. Non, mais à part ça, ça va.
Ça va, quoi.
Mais elle a raison, Claude, elle a raison.
C'est vrai que pendant l'occupation, on est venu plus chercher des bonnes femmes innocentes que récemment, mais même si ça arrive aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire, qu'on peut dire à nos auditeurs, avant qu'ils aient lu ce livre, pour quelle raison, en fait, cette maman est venue, a été.
Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pas un livre à suspense ou voilà, c'est, il le sait assez vite d'ailleurs. C'est une femme qui est sans papier. Et donc, voilà, un matin, ce petit garçon voit des. C'est un petit garçon merveilleux, quoi, qui est d'origine malienne et qui est magnifique. Voilà,
on l'adore. En tout cas, à la lecture du bouquin, on a tout de suite une sympathie pour lui. Ouais. C'est énorme. Mmh.
Et puis voilà, sa mère a pas de papier. Donc un matin, la police vient la chercher pour l'emmener dans un centre de rétention. Et c'est une journée dans la vie de ce petit garçon dans une cité HLM aujourd'hui. Parce que dans les chroniques de l'asphalte, c'était une cité, celle que j'ai connue moi dans mon enfance, qui est plus ancienne, quoi. Et là, c'est une cité d'aujourd'hui, donc ça change pas mal de choses.
Ça veut dire que vous êtes retourné dans les cités pour écrire le bouquin?
Oui, déjà, j'ai eu envie d'écrire ça en y retournant. J'y retourne souvent, mais là, j'y suis allé plus souvent pour voir.
Pour acheter du shit ou des trucs comme ça? Non. On le fait tous.
Non, ça vous confondez, c'est Bec BD.
Ah, pardon.
Le cœur en dehors, c'est chez Grasset. On en reparle dans un instant après la pub. Merci Samuel Benchetri d'avoir été le premier invité d'honneur de la Loge d'honneur.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. D'ailleurs, si vous souhaitez assister à l'émission, rien de plus simple, rien de plus facile, deux possibilités. Le téléphone, c'est le 3921, c'est 34 centimes d'euros par minute. Ou bien internet, www.vip-radio.fr. On retrouve donc Laurent Ruquier avec ses complices du jour, Monsieur Pierre Bénichoux, Mademoiselle Christine Bravo, Monsieur Jérémy Michalak, Mademoiselle Claude Sarraute et Titoff.
Samuel Benchetri, invité d'honneur de la dernière partie d'On va se gêner, puisque désormais nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Samuel Benchetri publie Le cœur en dehors, son nouveau roman chez Grasset. On racontait que c'était donc l'histoire de ce petit Charles, qui aime surtout qu'on l'appelle Charlie. Charlie qui va se demander pourquoi les flics sont venus chercher sa maman et qui va... En fait, on va suivre un peu toute sa vie à travers ses recherches dans cette cité, parce que il va croiser évidemment tous ses copains, il va croiser tous les gens qu'il croise tous les jours. C'est presque son autobiographie finalement, et aussi la vie que mène sa maman, et on voit que c'est une maman parfaitement intégrée d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une journée où on va se rendre compte doucement. Le livre, je crois, a une chute, il est assez drôle parce que je voulais que le ton soit léger.
Ah non, mais faut pas raconter la fin.
Non, je raconte pas la fin. Mais en tout cas, il dit peut-être au revoir quoi aussi à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a vraiment une vie française. C'est pour ça que d'ailleurs que le livre est chapitré heure par heure, parce qu'il est à l'heure française.
Il est capable de dire l'heure tout le temps. Ça, c'est un de ces trucs. Hein.
C'est un enfant qui aime.
Si vous avez aimé les chroniques de l'asphalte, ouais. Christine,
j'ai bien aimé son style.
Alors vous allez adorer ça, parce qu'on est dans le même ton. Par exemple, alors c'est au début du bouquin, et on décrit la cité, et le petit Charlie dit « Il y a un paquet de poètes qui ont des choses à leur nom dans notre quartier. Tour Verlaine, cité Hugo, centre d'activité Guillaume Apollinaire. Et tous ces machins sont plus moches les uns que les autres. Mais les poètes sont morts avant de le savoir. Mais la plupart des gens s'en moquent parce que les cités et les tours sont baptisées autrement. Par exemple, ceux qui habitent la tour René-Char ne disent jamais qu'ils habitent tour René-Char. Ils disent la tour bleue. Je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, parce que la tour n'est pas franchement bleue. Et entre nous, je peux vous dire qu'elle est grise. Mais allez savoir pourquoi ils disent bleu. Pareil avec la cité Picasso qui se trouve de l'autre côté du centre commercial. Personne ne dit jamais cité Picasso. Même s'il y a un arrêt de bus Picasso. Les gens disent cité des rapaces. Et je vous jure qu'il n'y a pas plus de Picasso que de rapaces dans cette cité.
c'est génial. Mais non, mais en plus, c'est vrai. Tu vois.
Attends, il a quel âge ce gamin?
Alors justement, ça c'est une bonne question. Quel âge il a le petit Charlie? Entre 10 et 12 ans?
Il a l'âge de mon fils. Il a 11 ans.
Voilà. 11 ans.
Ah bah dis donc, il est futé, hein.
Il est futé.
Mais il est ça, oui, c'est vrai qu'il est, il est futé. Et puis il a envie de, il parle aux gens, hein, le livre est adressé aux lecteurs, et il a envie de, comme les enfants, comme ça, qui sont un peu, Fauderge, quoi, coincé devant les adultes, il essaie de s'appliquer quand il parle aux grands, quoi.
Et son papa est parti depuis longtemps, il est retourné au Mali, enfin on sait pas trop exactement ce qu'il est devenu, même sa maman l'a manifestement perdu de vue, ce qui fait d'ailleurs qu'elle est devenue sans papier, parce qu'elle en avait des papiers.
Ouais, le père est parti avec tous les papiers, ce qui arrive souvent en fait.
Et alors à un moment donné, elle lui dit, la maman, il raconte en tout cas qu'un jour, elle lui a dit, écoute Charlie, si ton père est mort, alors il vaut mieux pas le savoir, ça garde de l'espoir. S'il est vivant, il vaut mieux pas le savoir non plus, ça me donnerait envie de le tuer. Tout le bouquin est sur ce ton-là. C'est-à-dire que c'est drôle, évidemment. Vous allez vous amuser, faut pas croire. C'est vrai que ça peut faire peur. On va se dire, tiens, on va lire un bouquin sur une expulsion. Mais non, c'est que c'est drôle. C'est la force du livre, c'est qu'en plus, vous avez réussi, tout en nous sensibilisant à ce problème, vous avez réussi à nous faire rire. Moi, je trouve ça très, très, très réussi. Ça vous donne envie de le lire, Pierre?
Ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, je voudrais, quand on parle d'un livre qui est raconté par un enfant, c'est un enfant qui parle, on se demande toujours, il y a eu deux grands exemples, il y a eu le fameux livre de Salinger, Catcher in the Rye, et il y a eu aussi le livre de Mila Jar, qui était le...
La vie devant soi.
Est-ce que vous vous êtes rapproché d'un de ces...
Les deux, complètement. Les deux. C'est les deux livres vraiment... moi, je le dis sans aucun... Enfin, je le dis, quoi. Vraiment, c'est les livres qui m'ont... Beaucoup plus, surtout l'attrape-cœur.
Et ça sort 10 ans jour pour jour après l'expulsion des Maliens de Saint-Bernard.
Exactement, qui manifestaient
ce week-end.
Hier, effectivement, à Saint-Bernard, c'était en quelle année vous dites ?
Il y a 10 ans.
Je voudrais donner un autre extrait du livre qui nous montre bien l'ambiance dans laquelle on est plongé, si vous me le permettez, Samuel Benchetrit. Il y a un moment que je trouve drôle aussi, il raconte que de temps en temps, on essaie évidemment d'amuser les jeunes qui ont une vie de quartier, évidemment, et qui a un carnaval. Et que pendant le carnaval, tout le monde se déguise. On peut s'habiller en ce qu'on veut, même si les écoles et la mairie choisissent des thèmes. Il y a eu Venise, et puis l'Asie, puis le sport et les sportifs, puis la Révolution française, et l'année dernière, le cinéma. C'est drôle de voir les gens qu'on croise tous les jours être habillés en gondolier ou en sportif, comme le gros mec qui tient à la casse des bagnoles en joueur de foot avec le maillot trop petit d'Itaï et les mocassins en guise de crampons, et sa femme en joueuse de tennis, qui est drôlement contente d'avoir les jambes à l'air pour une fois. Les thèmes sont décidés, mais... Tout le monde s'en moque. Il suffit de porter quelque chose de différent pour faire partie de la fête. Alors, il y a ceux qui mettent juste une cravate, des lunettes de soleil, qui se coiffent autrement. Et puis, les exhibos, qui en profitent carrément pour faire du naturisme dans la cité. C'est le cas de la famille Bissani, qui tous les ans se déguise en ceux qui vont à la plage. À la plage à Venise, en Asie, ou qui vont à la plage pendant la Révolution française. Et ça, ça m'a beaucoup fait rire, je dois dire. C'est vrai. Voilà, c'est le ton Benchetrit. On peut dire qu'une chose, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur ce bouquin, courez acheter si vous avez envie de vous amuser, d'être sensibilisé à un sujet du moment, un sujet très fort, courez acheter Le Cœur en dehors. Une explication sur le titre, peut-être, Le Cœur en dehors?
C'est le monsieur, c'est un monsieur qui lui dit ça, Le Cœur en dehors, c'est un truc de générosité, il a le cœur ouvert, quoi, voilà.
C'est pas seulement drôle, c'est poétique aussi, hein, je tiens à le dire, parce qu'il est amoureux aussi, le petit Charlie.
Il est très amoureux, ouais.
Très amoureux de Mélanie, il va même régulièrement devant le pavillon où elle habite, parce qu'il y a les cités, il y a les immeubles, mais il y a aussi les pavillons, ça va vous plaire, ça, Christine. Et évidemment...
Moi, j'étais en pavillon.
Il la surveille, la petite Mélanie, et puis de temps en temps, évidemment, il ne la voit plus, elle part, et là, un jour, ils sont au restaurant, en même temps que sa maman, elle est avec la sienne, et là, il y a une très belle phrase, très courte, je peux me permettre de la lire, parce que c'est très court. Il parle de Mélanie, il dit « Après son départ, les choses ont l'air malheureuses. On aurait dit qu'elle manquait même à sa chaise. » Voilà. Et il y a plein de choses comme ça dans le bouquin que moi j'ai adoré. « Le cœur en dehors », c'est chez Grasset, c'est signé Samuel Benchetrit.
Vous le savez, dorénavant sur Europe 1, on va gêner, c'est tous les jours de 16h à 18h30. On retrouve donc Laurent Ruquier avec sa bande autour de l'invité d'honneur.
Ça vous inquiète, Samuel Benchetrit, de voir autant de livres qui sortent? Vous me direz que c'est chaque mois de septembre la même chose, mais quand même, vous avez une forte concurrence.
Non, c'est bien qu'il y ait plein de livres qui sortent. Franchement, je serais triste s'il n'y en avait plus que 10.
Qui vous lisez, vous, Samuel Benchetrit?
Ah, plein de choses différentes. Là, j'ai, franchement, j'avais un peu de retard. J'ai lu le bouquin de Cormac McCarthy, La Route. Et j'ai trouvé que c'était un des plus gros trucs que j'avais lu de ma vie, c'est magnifique. Mais sinon, j'ai lu des gens de la rentrée aussi chez Grasset, parce qu'on me les a donnés, donc je suis reparti.
Oui,
et c'était bien, ils sont contents chez Grasset de leur rentrée, ils ont raison, c'est bien.
Il y a un truc quand même qu'ils ont fait chez Grasset, c'est pourquoi ils vous ont maquillé comme ça sur le bandeau de...
Pourquoi
de...
ils ont mis la photo?
Ouais, je sais pas.
Pourquoi?
Ouais.
C'est qu'elle a de mal, elle est très beau.
Allez, ils ont pas la peine de... la photo, ouais. Chaque fois.
Ils l'ont un peu surmaquillé quand même, Samuel.
Oh, je vous jure, je crois que je suis pas maquillé.
Ah bon?
Non, il est
C'est pour ça que ça fait cet effet, en fait.
C'est pas possible. Non,
je suis pas maquillé.
Vous n'êtes pas maquillé sur cette photo, vous êtes blanc.
Ou alors ils l'ont maquillé après.
Ouais. il est tout blanc, on dirait Mélinoton.
C'est possible, en fait.
Non, c'est pas possible.
Mais c'est vrai que c'est dommage.
Remarquez, si les gens pensent que c'est Mélinoton qui achète le bouquin, c'est bon pour vous.
J'aurais dû mettre un chapeau et tout.
Pierre, vous auriez pu quand même deviner que c'était Samuel Benchetrit qui était dans la loge d'honneur.
J'ai beaucoup aimé le premier livre de lui que j'ai lu et que j'ai eu la chance de le rencontrer un soir et qu'on avait parlé pendant un petit quart d'heure et que.
Toi, quand tu rencontres
je connais
soir,
bien ses amis et tout ça, donc pas. Ah ouais.
Quand tu rencontres un soir, tu parles un quart d'heure.
Tu le crois, parce qu'après, il a envie d'aller danser, Pierre. Il te dit, tu parles un quart d'heure, puis il te dit, bon, je vais danser. Quoi. c'est le problème de Pierre. Quand tu
il m'attend pour faire un monologue quand même.
Le quoi, sur mon nez, il a envie d'aller danser.
Mais qui va danser?
C'est l'heure de mon show.
Est-ce que tu peux être démodé et province, toi? Je vais danser.
C'est le quart d'heure américain, faut que je descende.
Moi, je trouve que Pierre s'est pas beaucoup énervé aujourd'hui pour la rentrée.
Donc vous connaissiez quand même déjà Samuel Benchetrit. Donc vous auriez pu
ce qu'il écrivait, puis je connaissais son histoire, je connaissais.
Mais voilà, mais c'est ça le problème.
Je connaissais mille choses avec lui et je connaissais, j'avais lu son livre sur le conseil du patron du bar où on s'est rencontrés. Voilà.
C'est-à-dire que moi,
je m'avais dit, il faut que tu lises son bouquin, c'est génial. Bon, voilà. C'était toute chose comme ça.
Moi, c'est terrible.
Je n'ai pas eu tout de suite. Je réponds à la question.
On ne peut pas s'arrêter de parler. C'est comme la chiasse.
Oh la classe.
Je suis désolé. Déjà la grossièreté chez les jeunes, c'est terrible, mais c'est les vieux.
C'est navrant.
Les vieux, ils peuvent se le permettre. Alors je vais te dire, moi, ce qui me gêne avec ce ravissant enfant, c'est que moi, je l'ai connu par la presse People.
Ah oui.
Ah, je suis tombée amoureuse, c'est dingue, il y avait sa photo partout. Ben lui, le gamin.
Le gamin. C'est plus un gamin.
Benchetrit.
En tout cas, Samuel Benchetrit publie, réalise aussi. Il a manifestement tous les talents. Mais au départ, c'était pas gagné, parce que on le sait peut-être pas. Tant que ça, ceux qui ont lu vos livres l'imaginent et le savent sûrement, mais quand même, vous êtes issu au départ d'une famille très modeste. Votre papa était serrurier, c'est ça?
Oui.
Et votre maman?
Ma mère, elle travaillait pas. Elle a repris le travail plus tard, mais elle travaillait pas.
Et vous avez arrêté votre scolarité à 15 ans?
Ouais.
Il y a une partie autobiographique dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez vraiment vécues.
Un peu, forcément. Plus que dans les chroniques de l'asphalte, c'est ça qui est drôle. Les chroniques de l'asphalte, c'est tellement inventé que, alors qu'on dit que c'est, alors que celui-ci, peut-être que le petit garçon, c'est un mélange, quoi, aussi de mon fils, de...
Christine, vous aviez une question pour Samuel.
C'est une queue de quoi que vous avez sur le bras? Non, mais regardez pas.
Non, c'est une petite aile, c'est pas une queue.
Elle confond les ailes et les yeux.
Non, mais elle voit des queues partout.
Pas du tout, on dirait une queue de lézard.
Non, c'est une petite aile, c'est des trucs vieux, ça. C'est
pas... Voilà, je savais que c'était une question intelligente.
Est-ce que vous vous souvenez, Titoff, quand vous aviez sport à l'école? Parce que je vais encore donner un petit passage. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que de parler d'un bouquin.
Ah ben oui, c'est sûr.
Et pour donner envie aux auditeurs.
Je me souviens très bien, c'était le seul moment où je savais que j'allais avoir une bonne note.
Le sport?
Ouais.
Alors qu'il est plutôt doué, hein, Charlie, je veux dire à l'école.
Ouais. Pas trop en sport, il est un peu frêle.
Alors oui, en sport, il dit, quand j'ai sport, ma mère me prépare toujours de quoi manger, comme des gâteaux ou un fruit qu'elle glisse dans mon sac. Le pire, c'est après la piscine. Oh, j'ai faim après la piscine. Je pourrais vous bouffer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la nourriture a pas le même goût quand vous sortez de l'eau. Tout est meilleur. Si j'avais un restaurant, je mettrais une piscine et je demanderais aux gens d'aller se baigner avant de passer à table. C'est sûr qu'ils adoreraient ma cuisine. Il est malin, ce Charlie, quand même.
Il est malin, ouais.
Très.
Non, mais c'est vrai que ça rappelle c'est des réminiscences de ces
petites madeleines.
Mais c'est vrai que quand on allait à la piscine, quand on était petit, on avait toujours un petit sac de chips.
Ah, les chips.
Tu te souviens, c'était des chips qu'on nous mettait. Et alors?
Ben oui, toi, tu te baignais avec.
De sortir de l'eau et d'ouvrir ses chips, ça avait un goût. C'est ça que j'aime bien chez Ben Chetrit, moi, c'est que, en fait, quand on lit ces trucs, on repense à des images qu'on a eues, qu'on a tous un peu vécues, même si on n'est pas tous maliens. D'accord. Dans une cité, voilà.
Est-ce que c'est un livre...
Moi, la prochaine fois, si on va à une piscine ensemble, je porterai des chips, hein, t'inquiète.
Est-ce que c'est un livre politique?
Non, je crois pas. Ou je sais pas, peut-être que tout est politique, mais pas trop. Je voulais pas rentrer là-dedans parce que... Non, c'est pas un livre politique.
Quand même, à un moment donné, vous servez de l'actualité, parce que Charlie et son copain Freddy se réfugient dans un local électrique. Ça nous rappelle un fait divers assez récent. Voilà, merci Jérémy, j'avais oublié le lieu, c'était Villiers-le-Bel. Donc vous êtes servi quand même de l'actualité. Il y a quand même des messages dans le bouquin.
Bien sûr, évidemment, le livre est... un peu contre tout ça, en tout cas pas de cette façon-là, quoi.
Merci de nous rassurer. Tu n'es pas pour les expulsions sans rien dire et tout ça, et pour que les sans-papiers soient torturés à mort.
Personne n'a jamais dit ça. On ne peut pas accueillir tout le monde. Moi, je
crains. Cœur du débat. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la fameuse phrase de Michel Rocard que reprend Claude Sarraute, puisque c'est une phrase de Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais évidemment, mais c'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est la façon, c'est le chiffre. Voilà, j'aime pas les chiffres annoncés au début de l'année, le quota. Voilà, le 28 000. Voilà. Pourquoi? Je comprends pas. Ça me gêne et je vois que ce chiffre est tellement bidon, quoi. C'est tellement un truc pour rassurer les gens, pour leur dire, voilà, 28 000 personnes représentent plus de sécurité, plus d'argent, plus de tranquillité. J'y crois pas. Quand on me dit ça, j'arrive pas à y croire. Ces chiffres comme ça, de généralité, me rappellent, je sais pas, des souvenirs. Pas irrespectés, ils sont explosés carrément. Ils sont bons élèves que, bien sûr, ils sont respectés.
Oui, enfin, quand même, tu comprends, mon chéri. Si on veut qu'ils s'intègrent, on peut pas accueillir tout le monde. Moi, je comprends pas.
Mais là, c'est pas accueillir, c'est renvoyer. Ça a rien à voir.
Bah oui, si tu accueilles pas, tu renvoies.
Non, mais c'est des gens qui renvoient des gens. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je peux pas rentrer dans cette discussion parce que je suis nul et on me donnera toujours un exemple pour me dire, je vais tomber sur un politologue, un mec comme il y a dans votre émission à la télé qui va m'expliquer que j'ai tort et il aura raison. C'est pas ça, c'est un ressentiment.
C'est très bon ça.
C'est un truc d'instinct c'est juste que par exemple cette histoire-là, elle est réelle, elle arrive tous les jours et il y a des gens qui sont en France depuis 30, 35 années, qui ont eu des problèmes de papier, d'informatisation, de choses, des enfants comme Charlie qui doivent partir.
Ce
qui est troublant, c'est quand on n'a pas de référence en fait, quand il y a des chiffres comme ça. Mais si on connaît quelqu'un qui
voilà,
c'est ce qui sert un peu, voilà, je m'en souviens, c'est bien,
qu'il y a de l'impression, et il y a des vies derrière des chiffres
dans ce genre de bouquin. Voilà, c'est ça, c'est au cas par cas. Après, il y a toujours un cas, il y a un côté humain.
Enfin, ne vous inquiétez pas, Philippe de Villiers est bientôt dans la majorité, le problème va être réglé très vite, on n'en parlera plus.
Et en tout cas, le livre est drôle. Je donne un tout dernier exemple. À un moment donné, le petit Charlie raconte qu'on peut se cacher facilement dans la cité, en tout cas que lui connaît des planques, et il dit la meilleure planque du monde, c'est Freddy Tanquin qui l'a trouvée. On l'a cherché pendant 20 ans, à croire qu'il était devenu invisible. Il s'était caché derrière Sandrine Villers. Le truc, c'est que Sandrine Villers pèse 700 kilos et qu'on n'avait pas pensé à regarder derrière elle. Ça s'appelle Le cœur en dehors. C'est chez Grasset. Je suis sûr que vous aimerez. C'est signé Samuel Benchetrit qui nous a fait la gentillesse d'être en quelque sorte le parrain de la loge d'honneur. Nouvelle rubrique de notre émission qui dure désormais jusqu'à 18h30. On se retrouve demain à 16h. Merci.
Évidemment, le rendez-vous est pris. On va gêner. C'est donc tous les jours de 16h à 18h30 avec Laurent Ruquier et son équipe.